Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonsoir, bonjour, vous écoutez les Patents Podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Les années 70 constituent sans doute la plus grande décennie de l'histoire de la boxe, un âge d'or durant lequel trois grands champions vont se disputer la suprématie mondiale dans la catégorie poids lourd, George Foreman, Joe Frazier et Mohamed Ali. Puissance, résistance, élégance, trois adjectifs qui évoquent les styles si différents des trois boxeurs. Si le combat le plus marquant de cette période restera sans doute le Rumble in the Jungle qui vit la victoire d'Ali sur Foreman, c'est la rivalité entre Joe Frazier et Mohamed Ali qui fit de cette époque un moment légendaire dans l'histoire de la boxe, une des plus grandes rivalités du sport qui n'est pourtant d'une amitié mais qui vira à la haine mutuelle et qui donna naissance à un triptyque inoubliable. Trois combats durant lesquels Joe Frazier et Mohamed Ali vont s'affronter entre 1971 et 75 et un dernier acte d'une violence inouïe connue sous le nom de Thriller in Mania. Ali versus Frazier, voyage au bout d'une guerre fratricide, c'est le thème de ce nouvel épisode de PO. Et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai l'honneur d'être entouré de mes fidèles sparring partners, Chloé, Younes, Sarah et Olivier.
Bonsoir.
Salut. Je suis très content de vous retrouver.
Ah bah nous
mais
aussi.
Avant de rentrer sur le ring, on va s'écouter une petite archive.
Plusieurs grands boxeurs américains se sont reconvertis souvent à la télévision ou au cinéma, à la scène. C'était le gars de Sugar Ray Robinson qui a chanté, qui a dansé un petit peu. Avec votre physique exceptionnelle, est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire des shows, de chanter, de faire du cinéma, de faire de la télévision, des séries américaines que nous voyons souvent en France?
You say I have outstanding looks.
Vous dites que je suis très beau.
But oui, you, vous avez un bon physique,
you,
oui.
Tu oh, yeah, yeah, yeah. Oui. You are pretty also.
Mais vous êtes très joli aussi, Michel.
Oui. C'est gentil. Je vous remercie.
Have you been propositioned?
Est-ce qu'on vous a fait des propositions?
Mais moi, c'est mon métier, la télévision. Est-ce qu'on vous a proposé de tourner au cinéma?
I would
On peut tourner ensemble, si vous voulez. Hein?
But, I've been offered, I'm making my movie, my first
on m'a offert de faire un film.
Movie,
je vais faire mon premier film.
30th of July,
ah, à partir du 30 juillet. Et en fait, je joue mon
Columbia
rôle, je me joue moi-même avec le film Columbia à Hollywood.
And little boys will act myself when I was small.
Et alors, il y aura des petits garçons qui me représenteront quand j'étais un petit garçon, mais à partir de 21 ans jusqu'à maintenant, je vais jouer mon propre personnage. Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer.
Oh, mais aucune raison, vous avez beaucoup de talent, vous l'avez déjà prouvé sur le ring, et je suis sûr que vous êtes un très bon comédien.
J'ai écrit un poème pour ce programme.
Vous avez écrit un poème pour nous.
J'ai demandé
à mes managers combien je touchais.
Combien vous allez recevoir?
They told me that you have no budget.
Et ils m'ont dit que vous n'aviez pas de budget. J'ai écrit un petit poème sur votre programme.
Très bien, c'est gentil.
I love your show.
J'adore votre programme.
And I admire your style.
Et j'aime votre style.
But your pay is so cheap.
Mais vous payez si mal.
I won't be back for a while.
Que je ne reviendrai pas d'ici un moment.
Un bout entre. Bien joué, Baudelaire.
Magnifique moment de télévision entre Mohamed Ali et Michel Drucker. Et oui, c'était Michel Drucker.
Tout est moustillé, hein, le Michel. Hein.
Sur le plateau de l'invité du dimanche, que toi avais vu en direct, Younes.
Tout à fait.
Le 7 mars 1976.
C'était l'émission juste avant Champs-Elysées.
Je vous conseille de regarder l'extrait, la vidéo en intégralité, c'est pas mal du tout. On va commencer par un petit tour de table. Voilà, pour servir la raclette, parce que on enregistre en mangeant, c'est bien.
Et en hiver.
Et en hiver. Alors, Ali, qu'est-ce que ça vous évoque? Et je vais commencer par Sarah, qui m'a dit qu'elle avait eu un truc très intéressant à dire à ce propos.
Sans pression.
Eh ben non, mais moi je me suis jamais forcément beaucoup intéressée à la boxe, donc Mohamed Ali, je connaissais de nom mais pas plus que ça, et en fait j'ai vraiment découvert son histoire grâce à mon papa qui m'a conseillé un livre que je vous conseille à tous aussi, qui s'appelle Alias Ali, qui a été écrit par Frédéric Roux, et c'est super intéressant parce que en fait...
Comme le sucre, Younes.
Ouais. Il faut savoir qu'on lui mettait beaucoup de bâtons.
Wow.
Dans le
roux. Excuse-nous.
Waouh, ça fuse.
Heureusement que j'ai une anecdote intéressante. Hein. Je vois que ça fait des étincelles. Non, alors juste en un mot pour expliquer le principe du livre, c'est pas une biographie d'Ali classique parce qu'en fait, il est allé récupérer des articles de journaux, il a retranscrit des interviews télé, des trucs dans la presse, etc. Et il a tout collé bout à bout pour faire l'histoire d'Ali, mais que à partir de documents. Historique. Et donc, en fait, c'est plein de petits paragraphes. Et donc, t'as les visions de tout le monde, en fait. La famille d'Ali, ses managers, ses adversaires, etc. Et ça fait un portrait super intéressant de la vie d'Ali et de l'époque.
Et on revit chronologiquement, alors.
Oui, exactement.
Les événements. Ok, voilà. Cool.
Dans le même ordre d'idées, moi, j'ai vu un documentaire.
Et j'ai lu un livre, moi, j'ai dit, Mickaël. Toi, t'as vu un documentaire, c'est de la merde.
Mais moi, je lis pas. Ah. Mais j'ai vu un documentaire de William Klein. Sur Mohamed Ali, alors qui est très brut en fait, c'est des images d'époque, il n'y a pas du tout de voix off, de commentaires, donc c'est vraiment des images d'époque d'Ali, de la population qui parle d'Ali, d'industriel, de politique et tout, et ça donne un peu un truc dans cet ordre là en fait, qui est assez intéressant, ouais. Qui est esthétiquement très intéressant, t'apprends pas forcément grand chose mais c'est plutôt pas mal.
Mais donc résultat, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la vie d'Ali avant de retravailler dessus pour notre épisode du Paris Podcast Festival et pour l'épisode d'aujourd'hui.
Oui, voilà, peut-être que c'est le moment d'en parler. On a fait un épisode sur le film Ali de Michael Mann avec les équipes croisées des trois podcasts Fréquences Modernes, donc 2 heures de perdu, Culture 2000 et nous-mêmes,
oui.
Le PO, et qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté.
Oui,
c'était en live, c'était en live au Paris Podcast Festival, oui. À la Gaîté Lyrique.
Et là, on va aller plus loin sur Ali versus Frazier.
Voilà, on va parler plus spécifiquement de la rivalité entre Ali et Frazier. Olivier.
Bah moi, Ali, ça me fait penser à la sieste, parce que c'est pratique, Ali, pour faire la sieste.
ouais.
Ali,
je te soutiens.
Ali, moi, pas de fan de sport.
Ali, c'est le sportif iconique qui dépasse le simple fait du sport. Ça me rappelle Michael Jordan, ça me rappelle d'autres.
Et ils sont nombreux.
Non, évidemment, il va dire Florent Balmont.
Ça me rappelle évidemment Florent Balmont. Non, mais Carl Lewis, enfin d'autres sportifs qui ont dépassé à un moment donné ce cadre-là, encore plus pour Ali, qui avait vraiment politiquement et enfin des choses à dire et à faire penser. Et en fait, moi, je connais pas. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'intéresser à la carrière d'Ali. Même que j'ai vu le film avant de connaître la carrière d'Ali. Alors le film Ali, je l'ai vu avant. Puis ensuite, on a fait le podcast du Paris Podcast Festival.
Le podcast, tu l'as fait avant de voir le film sur Ali? Ou te renseigner sur sa carrière?
Non, le podcast, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'avais vu le film déjà une fois.
Non, parce que c'est pas facile de suivre, donc je prends des notes.
Oui. Alors, j'ai vu Ali il y a quelques années. J'avais à peu près 21 ans. J'habitais à Vierzon.
Je vais couper son micro.
Après, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Ali. Mais en fait, je connaissais très peu. Et même la rivalité Frazier-Ali. Oui. En fait, on la connaît très peu. C'est quelque chose qu'on imagine un petit peu, exactement comme d'autres rivalités, comme Borg-McEnroe, comme d'autres. Mais finalement, je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, je suis très content d'avoir fait cet épisode.
Chloé.
Alors, moi, vraiment, Ali, à la base, je ne connais pas du tout. Je pense qu'avant qu'on commence à travailler un petit peu l'épisode sur Mike Tyson, Mohamed Ali, c'était un nom que j'avais entendu, évidemment, mais aucune idée d'où il venait, ce qu'il représentait. Moi, j'avais même une image où il était plus une figure politique, en fait, qu'un sportif.
Ce qui est vrai, en partie. Oui. Hein. Mais il est les deux, quoi.
Moi, c'est plus comme ça que j'en ai entendu parler à l'époque. Je ne savais pas du tout que c'était un boxeur. Et au fur et à mesure, les t-shirts, les photos iconiques, ce genre de choses. Et ensuite, j'ai écouté un super podcast de France Inter. Voilà, comme ça, on aura fait tous les médias.
Sur le Rumble in the Jungle
ça s'appelle Grande Traversée, si je ne dis pas de bêtises. Et ça couvre sur 6 épisodes, à peu près, la carrière d'Ali. Et déjà, c'était fascinant. Moi, j'ai découvert aussi son côté poète, qui m'a beaucoup plu.
Bah ouais, t'as vu, chez Drucker, il a trop fait de la belle poésie.
Voilà, ça rime et tout. Wesh Molière, c'est trop bien. Donc voilà, je connaissais très peu et je suis contente d'en avoir un petit peu plus appris.
Très bien, Younes.
Bah moi je connaissais bien.
Ah oui,
bah oui, c'est ton époque. T'es allé,
t'es,
forcément.
T'es allé au Madison Square Garden?
Non, j'ai été au Zaïre. En non, non, mais blague à part, effectivement, c'était l'idole de mon père. Et effectivement, bassiné quand il y avait des matchs de boxe à la télévision, etc. Et il me disait, rien ne vaut Ali. Voilà. Donc on voyait des boxeurs, donc on a eu des tonnes qui ont atteint des sommets, notamment Mike Tyson, mmh. Et il me disait ouais. Mais rien n'est comparable à Ali. Donc effectivement, à ce moment-là, je commence à m'y intéresser. Et à l'adolescence, un peu plus âgé, un super documentaire sort au cinéma, c'est When We Were Kings, et qui parle justement de ce fameux Rumble in the Jungle contre Foreman. Et pour moi, la véritable opposition à l'époque, ça a été toujours Ali contre Foreman.
Ouais.
Sauf qu'en réalité, quand on s'intéresse un petit peu à sa carrière et tous les faits même qui sont aujourd'hui classés un peu comme faisant partie de l'histoire, puisqu'il a eu des positions politiques assez fortes, on s'aperçoit aussi de sa vie personnelle, qui n'est pas hyper clean, et de l'opposition véritable en fait, qui est entre lui et Frazier. Frazier.
Oui, c'est au choix.
C'est un choix. On va dire Frazier, ça sera plus simple pour nous.
Hein. Okay. Surtout pour moi.
Voilà. Et en fait, s'il y a des oppositions dans le, store, dans le sport, elles sont nombreuses. On pense à Alain Prost et Senna, etc. Celle-ci dans la boxe, s'il y en a une qui illustre vraiment bien ce sport, c'est quand même Ali Frazier.
Oui. Moi, pareil, en fait, je suis un peu de l'avis de Chloé, c'est-à-dire.
Quelqu'un t'a posé une question, connais... Mickaël.
Pardon, excusez-moi.
On va la foutre.
Oui, oui, bah alors, on va
lancer. Non, mais non, mais
vas-y, Mickaël.
Pour moi, je trouve que du point de vue français, en général, Ali, c'est plus une figure politique que sportive. Parce que c'est vrai qu'on connaît assez mal sa carrière. Alors, moi, les deux seules choses que je connaissais, en fait, d'Ali, on va dire, avant de commencer à travailler sur le sujet, c'était. Le combat contre Foreman, en fait, au Zaïre, voilà, c'est un combat dont on parle quand même beaucoup. Et puis son style
oui,
élégant, basé sur son jeu de jambes, sur, enfin bon, voilà.
Qu'est-ce qu'il est beau à regarder d'ailleurs.
C'est fou. Hein.
C'est fou.
Ouais, c'est vrai qu'il a un style, il est très beau. On va en reparler, mais
immortalisé dans une expression que lui-même chantait.
Oui.
La légèreté de la
exactement,
du papillon.
Le papillon, et... ouais. Mais c'est marrant, on va en reparler, mais la boxe d'Ali et la boxe de Frazier, elle est diamétralement opposée, quoi. Et enfin, on va en parler. Mais du coup, effectivement, moi, je connaissais assez peu Ali.
Tu connaissais Tiozzo, toi, c'est ça? Fabrice Tiozzo, hein, qui te plaît?
C'est qui?
Ça te dit rien? Non, d'accord, ok.
Personne n'a la rêve.
C'est un boxeur c'est français, monsieur.
Il n'y a pas de souci, on coupera. Hein.
Voilà.
Attends, on va la refaire. Ouais, Tiozzo, j'adore. Ouais, carrément.
Tiozzo de Vincennes, surtout.
Alors, on va rentrer un petit peu dans le.
C'est ça qu'on coupera.
Dans le vif du sujet, en commençant évidemment par rappeler un peu qui est Mohamed Ali. Hein. Donc, il naît le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky, en pleine période de ségrégation raciale.
Et oui, et. Il a pourtant une enfance plutôt tranquille. Il vient pas donc de population afro-américaine de l'époque les plus pauvres et les plus démunies. Il a un père qui est dessinateur de panneaux publicitaires, une maman qui est cuisinière et femme de ménage dans des familles blanches. Et l'anecdote sur comment est-ce que Ali s'est mis à la boxe. Un jour, quelqu'un lui pique son vélo. Et sur les conseils d'un flic qui s'appelle Joe Martin et qui anime un club de boxe, il lui dit « Plutôt que d'essayer d'aller le chercher et de lui péter la gueule, tu ferais mieux de te mettre à la boxe, d'apprendre à te battre d'abord. Et puis comme ça, ça te permettra aussi un peu de te canaliser. » Et il suit ce conseil, il part prendre des cours de boxe et très rapidement, on voit qu'il a du talent.
Alors, heureusement que le flic en question n'était pas prof de badminton.
Non, et pourquoi pas ? On aurait peut-être eu un champion de légende.
C'est vrai.
On a tendance à sous-estimer le rôle de Joe Martin, qui a été son premier entraîneur, mais qui lui a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, visiblement, sa faculté à beaucoup bouger sur le ring, à toujours être en mouvement. C'est Joe Martin qui lui a appris cette vivacité-là.
C'est un peu le Mickey de Rocky, quoi, finalement.
Mais du coup, on sait s'il a retrouvé le mec qui a volé son vélo ?
Non, jamais.
L'histoire ne le dit pas, malheureusement.
Non, il ne l'a jamais retrouvé. Il a été interviewé à ce propos juste après sa médaille d'or au JO de 64 et il raconte qu'effectivement, il n'a jamais retrouvé son voleur de vélo.
Mais c'est assez ouf parce que ça me fait penser déjà à Mike Tyson qui s'est mis à faire de la boxe justement parce qu'il se faisait un petit peu tabasser, harceler.
L'injustice parfois provoque certains destins.
Mais ils sont poussés dans leur retranchement, quoi. Tout ce qu'il leur reste, c'est leur poids.
Ouais.
Alors, il a une carrière amateur intéressante quand même, Ali, du coup.
Oui, il gagne, il est vainqueur chez les Milours d'abord, en 59, Et en 60, il passe chez les lourds, où il gagne aussi. Donc, on appelle ça les National Golden Gloves. Et en...
En fait, c'est la compétition amateur la plus
reconnue.
On en a déjà parlé quand on a évoqué Mike Tyson. Et ensuite, en 1960, surtout à Rome, il est champion olympique.
Contre qui ?
Contre, mais il est champion olympique.
Ah bah oui.
Zbigniew Piartowski.
Voilà. Polonais, voilà, hein, c'est ça.
Qui est polonais, comme son nom l'indique fortement. Il a 18 ans. Et il va passer pro sous la houlette d'Angelo Dundee, qui est un entraîneur assez mythique dans le milieu, qui a notamment entraîné Chuga Ray Robinson, qui était l'idole d'Ali. Donc quand Ali va se faire entraîner par Dundee, c'est vraiment, il est aux anges.
Et oui. Alors Ali adopte très vite, comme tu disais Younes, un style très particulier, hein, rendu célèbre par la formule voler comme un pompier,
fumer comme un pompier,
boire comme un trou.
Et d'ailleurs cette carrière, grâce à
cette carrière. Du coup, a duré 2 heures. C'était un vendredi soir.
Voilà. Et au bout d'une demi-heure.
Le rappelin Macumba.
Et au bout d'une demi-heure, il perd l'avantage.
Alors, voler comme un papillon et piquer comme une abeille, je rectifie. Qu'est-ce que ça veut dire, Younes, puisque tu nous en parles ?
Ça veut dire quasiment danser sur le ring et en fait jouer de l'esquive beaucoup. Apprendre à encaisser et surtout être prêt à piquer assez fort. Et donc, effectivement.
Alors, il frappe chirurgical presque.
Il frappe chirurgical. Donc, être précis comme une abeille, effectivement, et toucher au menton, qui est un peu le point faible absolu du boxeur en général. Et effectivement, sa force résidera beaucoup sur ses mouvements et sa danse. Et apprendre à, en fait, à boxer dans le coin, comme on dit. Et là où il y a le moins de place pour bouger et savoir, en fait, esquiver vraiment au dernier laps de temps avant de prendre le poing sur le visage.
Moi, j'imaginais qu'il mettait ses bras dans le dos pour voler comme un papillon et qu'il piquait avec son nez.
Mais c'est magnifique. Il avait toutes ses chances. Il avait toutes ses chances, du coup.
Et je me suis dit, punaise, être champion du monde comme ça...
Il est habillé en abeille. Il a des petites antennes, tu
en
sais.
Fuseau. En fuseau.
Si, mais c'est comme ça que tu fais les pecs. Hein.
Bah, c'est ça.
Maya Ali.
Il y a un truc qui le différencie vachement des poids lourds de l'époque, c'est qu'il a une garde très basse.
Oui.
Ouais. Il ouvre vachement parce qu'en fait, ça, c'est une mécanique de provocation. Et effectivement, ça lui permet justement d'ouvrir la défense de l'adversaire, puisque finalement, lui, il apparaît un peu comme quelqu'un sans défense à ce moment-là. Sauf que c'est une technique d'observation pour voir en fait la fragilité de l'adversaire et piquer justement comme une abeille au moment où l'opportunité se présente.
Ouais, sachant que sa défense, elle est plus bas, elle est au niveau de son jeu de jambes.
Mmh. Et en plus, il a une envergure à ses bras quand il l'ouvre.
Une allonge assez impressionnante et surtout, bah, il est en mouvement en permanence. Donc l'allonge plus le mouvement. Voilà.
Il a des ressorts sur ses gants.
Inspecteur Gadget.
Go Gadget au gant. du coup, ça en fait quand même de lui quelqu'un de très complet parce qu'il est. Rapide
comme le
rapide, précis, puissant, et en plus il use d'une autre technique pour perturber l'adversaire. Il utilise le
il pète dessus.
non
alors, ça c'est toi Mickaël. on y reviendra
alors avant que tu ne cites ça Olivier, je me permets de dire qu'il a une endurance phénoménale. Voilà.
Mais en plus, phénoménal.
Phénoménal, voilà.
Ok, très bien.
Et tu peux y aller maintenant.
Et donc, il utilise le trash talking. Ah oui. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup pour déstabiliser l'adversaire.
Pour l'intimider, il l'insulte.
Avant.
Non, il l'insulte pas. Il le provoque, mais il est jamais grossier en fait.
Phrasier, justement, il va l'insulter. C'est le premier.
Il a pas cette phrase.
Il dit pas, oui.
On en viendra après peut-être tout à l'heure.
Ce que je veux dire, c'est qu'il emploie pas des gros mots.
Non, en fait, il se fait mousser beaucoup.
Non, mais.
Il se met beaucoup en valeur.
Je suis le meilleur.
Et si je puis me permettre, quand je dis insulte, c'est pas, il lui dit, un gros con, etc. Oui, mais c'est plus t'es nul, t'y arriveras pas, je suis le meilleur,
t'es
etc.
T'es l'air, etc. Oui, voilà. Quand même.
Alors,
comme le t'es un idiot.
Ça fait peur hein, quand il fait du trash talking.
Il pousse la provocation jusqu'à prédire le round dans lequel ses adversaires vont aller au tapis.
Ouais.
Bon, ça marche pas tout le temps.
C'est une ultime provocation en général.
Évidemment, évidemment. Alors, première date importante dans sa carrière, le 25 février 1964, il affronte Sonny Liston à Miami.
Qui est à l'époque champion du monde, donc WBA et WBC.
Tu fais bien la chèvre.
Je sais.
Justement, on parlait de trash talking, et là, justement, pour un petit peu se faire mousser, il va annoncer « il est vieux, je suis jeune, il est laid, je suis beau, c'est impossible qu'il me mette KO, lui-même le sait ». Il a de l'instruction, il sait reconnaître un champion. Je prédis qu'il tiendra jusqu'à la 8e reprise pour prouver que je le maîtrise. S'il veut aller au paradis, à la 7e, ce sera fini. Si ça peut lui rendre service, je lui règle son compte en 6. S'il veut faire le malin, dès la 5e, ce sera la fin. S'il ose se débattre, il rejoindra Archie Moore en 4. Voire encore mieux, je vais le casser en deux. S'il fait marche arrière, je le couche dès la première. Et s'il tient la vie, qu'il laisse sa vilaine carcasse chez lui.
Alors, presque beau.
C'est presque beau, mais en termes de prédiction, c'est pareil, quoi. C'est peut-être qu'il va perdre au premier, peut-être qu'il va perdre au deuxième, au troisième.
C'est, c'est un peu le principe de l'horoscope.
Il ménage un peu le chèvre et le chou.
Alors, j'avais parlé au moment du live du fait que ce combat, bon, il va finir par gagner, oui. On va peut-être
en six rounds et
mais
devenir champion du monde.
Il y a quelque chose qui plane au-dessus de ce combat, c'est ça?
Oui, parce que il y a deux trucs un peu bizarres qui planent au-dessus de ce combat. Le premier, c'est que il y a les soupçons de tricherie de la part de Liston, qui aurait apparemment, il avait mal à l'épaule. Après, donc on lui aurait appliqué de la pommade pendant le combat et il aurait demandé qu'on lui mette de la pommade sur les gants pour aveugler Ali.
Un peu de synthol.
Voilà. Deuxième version qui contredirait cette première version, c'est que étant donné les cotes qui étaient hyper déséquilibrées, parce qu'à l'époque Mohamed Ali était presque un inconnu par rapport à Liston, et il était donné perdant à 7 contre 1.
Ouais, donc un outsider clair.
Clairement un outsider. Et il y a certaines écoutes téléphoniques qui ont été captées par le FBI à l'époque, qui laisseraient entendre que Liston aurait été acheté par des parieurs malhonnêtes qui lui auraient versé une grosse somme d'argent pour qu'il perde, donc qu'il simule une blessure à l'épaule.
J'y crois pas.
Dans tous les cas, Ali n'est pas impliqué par cette fraude. Hein. C'est Liston qui est impliqué. Hein.
D'ailleurs,
il serait impliqué.
On peut peut-être aussi préciser qu'à ce moment-là, il ne s'appelle...
C'est exactement ce que j'ai dit. Bravo, Guillaume. Non, c'est toi qui as... Vas-y. Après toi.
Merci. Il ne s'appelle toujours pas Mohamed Ali.
Oui,
tout à fait.
On l'appelle encore Cassius Clay, donc son nom de baptême de naissance. Et effectivement, à ce moment-là, il n'est pas encore la personnalité complète qu'il deviendra après. Parce que son histoire va faire qu'il va rencontrer des personnes.
C'est justement juste après ce combat donc, que sa notoriété globale va commencer à grandir. Forcément, il vient de devenir champion du monde. Et en plus, qu'il va s'engager politiquement puisqu'il rejoint l'organisation Nation of Islam, donc, qui est une organisation politico-religieuse qui lutte pour la communauté afro-américaine. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que nos copains de Culture 2000 l'ont très bien fait dans l'épisode du Paris Podcast Festival qu'on vous invite à écouter.
Ouais.
Et donc, c'est à ce moment-là que Cassius Clay va devenir Cassius X, rejeter le nom Clay qui, pour lui, est un nom qui a été donné par les propriétaires des esclaves à une époque. Puis Mohamed Ali, qui est le nom qui va être donné par Elijah Mohamed, qui est le chef de la Nation of Islam.
Oui, donc c'est ce chef-là qui le prénomme. Mohamed Ali.
Oui, tout à fait.
Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, Clay, c'est le nom d'un fervent abolitionniste américain du 19e siècle. Donc il abandonne Clay qui, en fait, n'était pas un mauvais bougre, lui.
Non, oui.
Pour le coup.
Et donc c'est là vraiment que sa notoriété va dépasser le sport puisqu'il s'engage très clairement dans la lutte
pour les droits civiques
auprès d'une organisation qui commence aussi à grandir et notamment c'est... J'ai perdu son nom.
Malcolm X,
merci. Qui était la figure la plus célèbre à l'époque.
Oui, du coup, lui aussi a perdu son nom puisqu'il s'appelle X comme Mohamed Ali avant de devenir Mohamed Ali, s'appelait donc Cassius X.
Alors sportivement, Ali va vraiment dominer la boxe de 64 à 67.
6 combats en 66 contre 2 par an habituellement pour les champions.
Alors ça a l'air
cool. Deuxième victoire contre Liston.
Ouais, deuxième victoire, encore entachée de soupçons de triche, parce que en fait, il gagne sur un KO à la suite d'un coup qui paraît totalement anodin.
Ouais.
Je vous invite à regarder les images, effectivement, c'est un coup qui a pas l'air d'être très violent.
C'est avec son nez en plus, donc.
Liston s'effondre, et ce qui est marrant, c'est que le public réagit tout de suite et crie à la supercherie, quoi.
Ouais.
Et tout le monde a vu que ce coup était quand même bizarre. Donc, encore une fois, Liston, il a pas l'air d'être hyper honnête comme gars. Hein. Enfin, bon.
Alors, de ce que disait Chloé, je trouve que c'est intéressant, effectivement, c'est qu'en 66, Ali, il va combattre 6 fois, alors que d'habitude, les champions du monde, ils combattent plutôt 2 fois, 3 fois par an, pas beaucoup plus. Donc c'est pour montrer aussi que c'est un acharné de travail et que voilà. Enfin,
puis il faut qu'on
c'est
le
quelqu'un
voit,
qui l'en veut
et
puis
voilà,
exactement.
Il a, il a comme une sorte de motivation ascensionnelle comme ça et effectivement ça peut paraître court de sa domination de 64 à 67, mais c'est un sport qui est très très exigeant et qui demande un investissement physique incomparable peut-être dans les autres sports et effectivement durer aussi longtemps à ce niveau-là et faire autant de combats par an. C'est peut-être une première fois, peut-être.
Alors, effectivement, il domine la boxe de 64 à 67, mais il y a une raison à ça, c'est que Mohamed Ali, en 67, refuse de servir dans l'armée américaine, alors en pleine guerre du Vietnam.
Ouais.
Oui, c'est ce qui va mettre un énorme coup d'arrêt donc, à sa carrière à ce moment-là, puisque donc, il refuse l'incorporation officiellement dans un centre de recrutement le 28 avril 1967. et c'est quelque chose qu'on a pu déjà dire, mais je pense que c'est vraiment important de le répéter. C'est une position vraiment courageuse.
Très courageuse.
Parce qu'on aurait, il aurait très bien pu, comme beaucoup de gosses de riches ou personnalités, tu rentres dans l'armée, tu fais quelques trucs, mais tu vas clairement pas combattre au Vietnam. Et lui, il refuse un peu cette hypocrisie et il dit clairement non, je n'irai pas combattre. Il y a cette célèbre phrase où il explique que pour lui, les Vietcong ne l'ont jamais traité de N-word, du N-word. Oui. Et donc voilà, enfin c'est une position très forte à ce moment-là et très critiquée aussi puisqu'on n'est pas encore dans la période où on a complètement basculé vers une critique de la guerre du Vietnam. Au début, il va être condamné.
Il va
avoir 10 000 dollars d'amende et 5 ans d'emprisonnement, mais il ne va pas les faire. Par contre, pour dire, il perd sa licence de boxe et son titre.
Il est dégradé, oui. Dans...
Exactement, il va quand même pas boxer pendant 3 ans.
Oui, oui.
Enfin, en tout cas, pas de combat officiel. Et la Cour suprême, c'est elle qui va statuer effectivement en 71 et qui va lui donner raison en disant, alors je ne sais pas exactement comment c'est dans la loi américaine, mais en disant, je lui reconnais son statut d'objecteur de conscience, et c'est-à-dire que, vu sa religion et vu ses croyances, il a le droit de refuser.
Voilà.
Il a le droit, mais quand même, normalement, enfin, dans la loi, il peut refuser en tant qu'objecteur de conscience, mais il doit faire quelque chose en parallèle qui rejoint, malgré tout, la décision qu'il a prise de refuser ça ou ça.
D'accord.
En l'occurrence, l'armée.
Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un acte d'autant plus courageux qu'il a en fait sacrifié certainement les plus belles années de sa carrière parce qu'il est jeune à ce moment-là.
Il est
au sommet de la boxe mondiale.
Il est en plein de possession de ses moyens.
Ouais. Et pendant 3 ans, il va pas pouvoir exercer. Ses licences lui sont retirées. Hein.
Ouais, il va avoir des problèmes.
En fait, il
refuse plus de servir d'image entre guillemets iconique aussi à l'armée américaine. Plutôt que de s'imaginer aller combattre au Vietnam, c'était aussi pour lui aussi de refuser que son image soit utilisée aussi. Oui. On l'a vu avec beaucoup de stars à l'époque, peut-être Elvis Presley,
oui.
Qui lui a servi aussi, clairement de propagande parce que le cool, lui aussi servait son pays parce que son pays était avant tout le berceau des libertés et au-delà même des avis qui étaient un peu contraires. Quoi, voilà.
Alors effectivement, il va être absent, il va revenir en 71 hein, après la décision de justice. Et l'absence d'Ali va profiter à un certain nombre de boxeurs, dont un certain Joe Frazier, qui va devenir champion du monde en 70. Qui est ce monsieur ?
Alors Joe Frazier, il est né le 12 janvier 44 en Caroline du Sud, à Beaufort, comme
le fromage.
Comme le fromage, il est content.
D'où la raclette de ce soir.
Uniquement du beurre. Du coup, il a grandi dans une famille pauvre et il a quitté l'école à 13 ans. Il a commencé par devenir conducteur de mule. Et alors, cette info me fait beaucoup rire parce que j'imagine la mule en marche arrière.
Mule.
Et ensuite, il va travailler dans une fabrique de coca et ensuite dans un abattoir.
Ouais. Oui.
Ça pose un peu le personnage.
De Coca-Cola.
C'est d'ailleurs pas
de feuilles de coca.
Oui.
On précise.
Son travail en abattoir, c'est ce qui a inspiré, mais je pense que tu as l'anecdote, Rocky. Peut-être, c'est ce qui a inspiré Rocky, tout à fait.
Rocky, exactement. Ouais.
Et juste parce que c'est important pour
On explique juste, pour ceux qui n'ont pas vu Rocky, il y a cette scène où Rocky s'entraîne en frappant des carcasses de viande.
Tout à fait.
Quoi.
J'ai pas vu Rocky, mais cette scène, je la connais.
Oui, elle est connue.
Dire que, donc, comme Chloé l'a dit, il a grandi dans une famille pauvre, très pauvre, beaucoup plus pauvre que celle de Mohamed Ali, dans un quartier très défavorisé.
Au milieu d'une famille nombreuse, je crois qu'il est le dernier d'une fratrie.
12 enfants.
12 enfants.
Ouais. 12 enfants,
exactement.
Merci.
Donc voilà, en même temps, quand tu commences à t'arrêter l'école pour travailler à 13 ans, voilà. Ça veut dire quelque chose. Et lui, il fait de la boxe pour perdre du poids, à la base.
Marrant.
Il ne veut pas forcément en faire quoi que ce soit. Et sa vie va changer en 58, lorsqu'il va se rebeller contre son patron qui lui frappe devant lui un enfant noir.
Voilà. D'accord.
Donc là, il va se dire, là, il a un peu peur pour sa vie. Sa mère aussi, et il l'envoie à New York. Puis chez une tante à Philadelphie, Tata Brigitte peut-être, qui est là, je t'embrasse. Et c'est à partir de 17 ans qu'il va commencer la boxe.
Oui. Thérèse Frazier, elle s'appelait.
Thérèse.
c'est vraiment une blague.
C'est vraiment un nom de tante, quoi.
Et c'est là où nos avis diffèrent. Nos avis divergent et divergent, c'est beaucoup. À savoir qu'il va avoir son surnom par l'entraîneur de l'époque de 17 ans.
C'est quoi
Durkheim,
déjà son surnom
qui lui répétait sans cesse be smoking, soit fumant, parce qu'il avait l'habitude de faire fumer ses gants contre les adversaires.
Moi, j'aime croire à cette anecdote.
On va l'appeler les Smoking Joe.
Et moi, du coup, je sais plus où est-ce que je l'ai noté cette anecdote, mais de toute façon, c'est un petit peu moins précis, puisque il semblerait que ça vienne de ses fans qui l'appelleraient Smoking Joe en référence à une locomotive, parce que comme une locomotive, il avançait sur ses adversaires en jurant, en crachant, en pestant, en faisant plein de bruit.
Très bien.
Sympa.
Et donc lui aussi, comme Ali, hein, il va commencer une carrière d'abord amateur. Il va perdre contre Buster Mathis, qui va donc être celui qui va représenter les États-Unis dans la catégorie poids lourd au JO de 64. Mais coup de bol pour Frazier, Mathis se blesse et Frazier y gagne. Et comme Ali plus tôt, il va gagner la médaille d'or au JO.
Voilà, pour la petite anecdote, 1960, Ali, médaille d'or JO. 1964, Frazier, médaille d'or JO. 1968, Foreman, médaille d'or JO. Ouais.
1972, Younes, médaille d'or.
Bravo Younes.
J'ai dit déjà qu'on n'en parlait pas ce soir.
Non, ah oui, pardon.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il est, il se blesse à la main.
Non, je l'ai pas dit.
Il se blesse à la main droite et va gagner la finale juste avec son poing gauche.
Ouais. Alors qu'il est droitier.
Mais il avait quand même un avantage sur la gauche. C'était quand même son crochet du gauche qui était dévastateur.
Qu'on appelait le coup céleste.
Oui, tout à fait.
Certains journalistes l'appelaient le coup céleste. Et d'ailleurs, on le voit notamment dans les deux combats. C'est assez bluffant.
Carrément.
Surtout dans le premier, on va en parler. Mais il est très petit, hein, pour un poids lourd.
Oui, il fait 1m31.
Donc ce qui est pas...
Non, mais oui, il est très petit. Et donc,
il a 10 cm de différence avec Mohamed Ali, par exemple.
Ce qui est quand même énorme. Contrairement à Ali, il n'a pas une très grande allonge parce qu'il a des petits bras.
Au contraire, il est très fort au corps à corps.
Voilà. Court sur pattes, court sur bras, mais très fort au corps à corps, effectivement.
Exactement.
Et sa technique, c'est d'aller tête baissée, de foncer dans le lard de l'adversaire. Ouais.
Et il a ce qu'on appelle l'esquive plongeante, c'est-à-dire que c'est rigolo parce qu'on dirait vraiment une tortue, géniale quand il boxe, où il se baisse tout le temps comme ça. Ouais,
en fait, il est contrairement à Ali, il est pas du tout élégant.
Oui, Ali est très droit.
Ali il est très droit, un peu noble, tu vois, comme ça, il bouge beaucoup. Frazier, il est un peu arc-bouté sur lui-même et il se baisse sans arrêt, il profite de sa petite taille finalement.
Et c'est impressionnant, du coup, tu vois tous les coups, on en parle après, mais tous les coups de Ali qui passent au-dessus de sa tête.
Ouais.
Je trouve ça trop cool.
Mais du coup, il posera énormément de problèmes techniquement à Ali.
Et à tous les boxeurs d'une manière générale.
Effectivement. Et quand on n'arrive pas à l'attraper, parce que justement on a un avantage au départ d'allonge, le fait de devoir durer en fait crée un désavantage. Donc c'est soit tu le chopes tout de suite, ou soit en fait plus le combat avance,
plus tu t'épuises.
Et plus c'est Frazier en fait qui prend l'avantage, logiquement.
Alors, après avoir gagné les JO en 64, il débute sa carrière pro en 65.
Eh oui.
Non, pour dire en quelques chiffres très frappants, entre août 65 et fin 67, il va gagner 19 matchs, hein, donc zéro défaite, et il y en a 17 qu'il va gagner par KO, donc c'est absolument énorme, mais ce n'est pas surprenant puisque l'une de ses qualités, c'est la puissance, et donc avec notamment son coup céleste, il va souvent arriver à mettre KO ses adversaires avant le temps réglementaire.
Comme toi, Younes, mais alors, on attend que 68 pour qu'il soit champion du monde des poids lourds. Ce sera contre Jimmy Ellis.
Ouais, Jimmy Ellis, en fait, qui gagne grâce en fait à la destitution d'Ali, hein, qui gagne le titre. Et il affronte Jimmy Ellis
en février 70,
non pas 68, Olivier.
Tu peux être pire précis, s'il te plaît, Olivier.
Ça va, je me casse, c'est bon.
Frazier le met KO au 4e round. Il est champion du monde, mais vous allez voir que son titre ne fait pas l'unanimité. Écoutez.
Soirée de gala au Madison Square Garden de New York. Pour le match, Joey Frazier, Buster Mathis, comptant pour le championnat du monde des poids lourds. Mais pour ces manifestants, ce match est une escroquerie, car il n'existe qu'un seul champion du monde, Mohamed Ali, qui sous le nom de Cassius Clay, avait commencé sa carrière comme champion olympique à Rome à moins de 20 ans. Devenu objecteur de conscience en épousant la foi musulmane, Mohamed Ali a été déchu de son titre. Mais pour ces manifestants, qu'importe les décisions du tribunal ou les décisions des fédérations de boxe, Mohamed Ali est toujours le plus grand et le plus fort. C'est lui le champion. Et ce ne sont pas les policiers qui les empêcheront de le crier sur les trottoirs de New York.
Ouais. Bah, oui, voilà. Du coup, il est champion du monde, mais...
Après, il arrive tristement ce qui peut arriver dans le sport quand l'opposition naturelle, celle que tout le monde attendait, Ali... n'est pas présente et empêchée. On pense à tous les partisans, les fans qui, derrière, effectivement, de façon, pour eux, de leur point de vue, hein, de façon légitime, doivent crier et scander le fait que ce championnat est un peu fantoche, quoi.
Et d'ailleurs, même Frazier lui-même, même si ça peut être injuste de dire tu n'es pas légitime, mais même lui, il le sait, il le sent, il ne pourrait être crédible et qu'en affrontant Ali et en battant Ali, et il veut l'affronter et le battre pour prouver que c'est lui le meilleur.
D'ailleurs, il fait quelque chose de très curieux quand Ali, lui, est mis sur le banc de la société. Qu'est-ce que fait déjà Frazier en fait? Il l'entretient un petit peu, il l'aide, il lui donne.
Alors il faut savoir que Ali à l'époque ne peut plus combattre, hein, il gagne plus d'argent avec la boxe.
Ouais.
À l'époque, je savais pas, en fait, il donnait des conférences dans les universités, les églises, pour prêcher en fait la philosophie
de non-violence, peut-être
des Black Muslims.
Ouais.
Et en fait, il gagnait de l'argent. Enfin, il survivait. Je pense pas qu'il gagnait forcément. Ouais. Il survivait comme ça, ouais.
Et oui, et du coup, Frazier, il va essayer de tout faire quand même pour que Ali soit récupère sa licence pour pouvoir se battre contre lui. Il va essayer de le faire dans organiser un combat dans une réserve indienne, dans un avion.
C'est très drôle.
Ouais, à Vierzon.
Ça a failli marcher,
c'est plus drôle ça.
Et il va demander même à Richard Nixon de la réhabilitation d'Ali. Donc
ça c'est pas une blague.
Non, c'est pas une blague. Le reste non plus. Et donc Frazier fait beaucoup de choses pour Mohamed Ali. Il lui propose même de l'argent.
Il lui donne de l'argent. Voilà, ouais, d'après.
Et au-delà de ça, parce que là on pourrait se dire bon l'argent ça c'est sympa et tout, sur le reste on pourrait dire ouais, mais bon, c'est aussi parce que pour lui, il a envie que le match ait lieu. Mais au-delà de ça, par exemple, en 67, Frazier avait boycotté déjà le tournoi WBA des poids lourds, qui avait dépossédé Ali de son titre pour des raisons purement politiques. Et donc, il le soutient même dans sa décision de refuser son incorporation. Donc, on a l'impression qu'il y a un vrai soutien de Frazier envers Ali, au-delà de la seule volonté de faire le match pour prouver qu'il est le meilleur.
Bien sûr,
il y a une forme de respect envers Ali.
C'est ce qui transparaît en tout cas dans toutes ses volontés que Frazier.
Oui, il est donc, et puis leurs rapports sont plutôt bons à cette époque-là.
Jusqu'à ce qu'Ali récupère sa licence.
Voilà, on l'a dit, en 71, la décision de justice tombe, donc il est acquitté.
Il est réincorporé.
Et il récupère sa licence, il redevient boxeur professionnel, et là, effectivement, son comportement va changer.
Il arrive en roue arrière, il fait le signe de Jules, il fait « Y'a quoi ?»
C'est
moi le champion.
C'est le début, en fait, de la rivalité un peu mythique entre les deux hommes. Puisque Ali va se lancer dans des séries de diatribes extrêmement humiliantes pour Frazier.
Très violentes, oui.
Qui ne cesseront d'ailleurs qu'en 75 après leur troisième match. Il va vraiment dire qu'il est débile, idiot, qu'il est très laid. Il va avoir des attaques, effectivement, c'est ce qu'on disait au début, beaucoup plus personnelles envers lui qu'envers ses autres adversaires.
Ouais. Et c'était déjà un peu le cas avec Nixon. Il a notamment il compare Frazier à un gorille.
Oui,
très souvent, ce qui est hyper humiliant, mais il faisait déjà ça avec Liston qui comparait à un ours.
Un ours, ouais.
Et surtout, il l'appelle, pardon, mais il l'appelle surtout, ce qui est extrêmement violent, l'oncle Tom, qui est vraiment c'est un roman, enfin, c'est le titre d'un roman, c'est vraiment le symbole de l'esclavagiste, parce qu'il l'accuse vraiment d'être du côté des Blancs. C'est les Blancs qui soutiennent Frazier, il y a tout un
son
truc.
Son équipe voilà. Autour,
toute
c'est
l'équipe
des Blancs.
Sont des Blancs, et ça passe pas du tout. Ce qui est profondément, moi, je trouve injuste parce qu'on l'a dit, Frazier a commencé à bosser à 13 ans. Il vient d'une famille.
Il vient vraiment du prolétariat noir.
Il vient vraiment du prolétariat noir qui sont censés défendre les valeurs de Mohamed Ali.
Oui, tout à fait. Alors, finalement, après 4 ans d'attente, le grand combat entre Frazier et Ali va avoir lieu au Madison Square Garden.
Cassius Clay fought my way out to see another day. 7-1 odds against old Sonny and Liston. Took my title from it, but I kept on my mission. Flow like a butterfly, sting like a bee. Flow like a butterfly, sting like a bee. Now you got me dancing. I'm a champion of the ring. Now my name is Muhammad Ali. No George Foreman ever called. Champion of the ring. Know my name is Muhammad Ali. Yes, my mind is free. And all your love I'll never forget. Yes, it. Like a bee.
C'était Mohamed Ali par Big Ed Todd and the Monster, sorti en 2010. C'est un morceau récent. Ah oui. Alors, on va présenter un petit peu les enjeux de ce combat, quand même.
Bah, c'est très simple. Oui. C'est un combat incroyable entre, ça arrive quand même assez rarement, entre oui. deux champions qui sont totalement invaincus jusque-là.
Mais mm-hmm. totalement. Hein.
Mais
donc,
totalement.
À l'issue de ce match, il y en a un qui prend l'avantage.
Donc, Ali part sur 31 victoires, dont 26 KO, et Frazier à 26 victoires. Pour 23 KO.
Ce qui est pas mal quand même.
Et, oui. et donc avant le match, Ali, comme d'hab, a bien fait monter la sauce auprès de l'opinion publique. Il faut dire aussi que Ali récupère le soutien de la population noire américaine. Oui.
Comme contre Foreman en fait déjà.
Exactement, oui, oui. comme contre Foreman.
4 ans plus tard.
Le fils de dans un documentaire, le fils de Frazier raconte même qu'il se faisait un peu taper ouais. dessus à l'école et ouais. tout parce qu'on disait ton père c'est l'allié des blancs, etc. Ouais. Notamment à cause de ce que racontait Ali dans les médias. Et les blancs vont plutôt soutenir Frazier. Et Ali dit haut et fort ouais, si je perds, je vais ramper devant Frazier et lui dire qu'il est le plus grand. Et il ne le fera pas, spoiler alert. Et Frazier, de son côté, dit il pensait que ça m'affaiblirait de cracher comme ça sur moi, mais c'est faux. Moi, ça m'a rendu encore plus fort. Et ça m'a ouvert les yeux sur qui il était vraiment. Et ça m'a donné envie de le battre.
Un mauvais joueur.
Ouais, un putain de mauvais joueur.
Un putain de mauvais joueur.
C'est une entreprise de démolition, Ali. Hein. Dès qu'il commence à parler de quelqu'un, c'est uniquement pour le déstabiliser et effectivement il essaie toujours de récupérer en fait
et
la population.
Et qu'est-ce qu'il parle ?
Il parle,
il parle, mais c'est
qu'est-ce qu'elle cause ? Qu'est-ce qu'elle cause ?
Dans tous les témoignages, c'est ouais. mais en fait il s'entraîne autant qu'il ne parle. Il s'arrête jamais.
Il s'arrête jamais.
Ouais. On se demande où il trouve son fameux souffle en fait en endurance.
Alors outre le fait qu'il parle beaucoup, c'est quand même un combat de style complètement différent.
Proposition de style même. Ouais.
Entre Ali qui tient ses adversaires à distance en dansant et en plaçant le coup de grâce.
Donc l'élégance.
Avec
l'élégance.
Son petit tutu.
Et coup pas troupé en face. Quoi.
Et Tortue Génial en face. Qui est très fort au corps à corps, qui va faire des esquives plongeantes, puis ensuite balancer son coup céleste du gauche au bon moment.
Ouais, tout l'enjeu du combat, c'est qui va imposer son style en fait. C'est ça qui est assez hallucinant et c'est ça qui est passionnant quand on voit ce combat. C'est Ali va tout faire pour garder Frazi à distance, alors que Frazi va tout faire va pour aller au corps à corps. C'est là que ça va être un vrai combat.
C'est deux philosophies opposées, ouais.
Effectivement. Ouais, deux philosophies opposées. Alors quand même un petit nom sur les personnalités qui sont présentes.
Ah bah, oui, bah alors il y a la crème de la crème là.
Ouais, donc on a Josiane Balasco qui est là.
Patrick Timsit.
Patrick Timsit.
Richard Berry.
Et Claude Zidi.
Et Claude Jean Colina.
On a Sinatra qui joue les photographes, oui. Qui fait des selfies avant l'heure.
Pour life.
Et ouais. Et Burt Lancaster aux commentaires. Donc oui. C'est quand même pas mal, hein. C'est comme si
c'est pas rien.
C'est comme si justement Josiane Balasco venait pour commenter un match entre Brahim Asloum et Fabrice Thiodo.
Ils ne sont pas de la même génération, mais ça aurait pu le faire. Voilà. Ouais.
Et c'est d'ailleurs, il est appelé un le combat du siècle, même oui. Si on verra, c'est que c'est pas forcément lui qui est le plus incroyable non. À regarder.
En fait, il est appelé comme ça. A priori, je crois, hein. Il est appelé le combat du siècle avant qu'il ait lieu.
Bah oui, c'est ça.
On a tendance à penser qu'il est appelé le combat du siècle parce que c'est le plus grand combat de l'histoire, mais en fait, c'est pas le cas.
C'est de la com pré-combat.
Il y a pure tous les combats comme Rumble in the Jungle.
Exactement.
Comme...
Exactement.
À l'américaine, on annonce la couleur avant même de commencer.
Oui.
Frazi a cette réputation d'être un peu, j'ai marqué, un diesel, c'est-à-dire qu'il a du mal à rentrer dans ses matchs. En général, il se fait un peu bousculer les 2-3 premiers rounds. C'est après qu'il commence à devenir commence à prendre le dessus. C'est d'ailleurs ce qui va lui coûter très cher contre Foreman en 73.
Effectivement, ouais.
On y reviendra un petit peu.
Foreman le savait. Ouais.
Et ce combat contre Alice n'échappe pas vraiment à la règle.
Bah oui, Frazier se fait dominer dans les 3 premiers rounds. Mais on sent quand même qu'il fatigue un peu Ali, comme il bouge un peu dans tous les sens, etc.
Bah, pas tant que ça, en fait. On, pour l'avoir vu avec Olivier, en fait, ce qui est assez impressionnant, et d'ailleurs les commentaires le disent, c'est qu'Ali, les commentateurs disent à un moment, Ali est un danseur, mais aujourd'hui, Ali ne danse pas. Et c'est vrai que sur le ring, on le voit pas tant bouger.
C'est vrai que c'est assez étonnant. On m'a vendu un papillon, j'ai vu un dindon.
Non, il est solide sur les appuis, mais tu sens qu'il peut basculer. Il est très ancré.
Ouais. Beaucoup plus que ce qu'on peut voir sur les autres match, les autres combats d'Ali, où là, au contraire,
très aérien.
Ouais.
Et ce qui frappe aussi, c'est que, en fait, très vite, après le troisième round, il se retrouve beaucoup dans les cordes.
Ouais.
Et du coup, au corps à corps. Et c'est Frazier qui prend le dessus à ce moment-là.
Et là, il s'en prend un peu plein la gueule, notamment les gros crochets du gauche de Frazier, et voilà, qui le pousse au maximum dans les cordes pour faire du corps à corps. Au sixième round, Ali fatigue. Même s'il réagit, on le voit quand même beaucoup taper, etc. Enfin voilà, il rend les coups, mais il ne parvient plus tout à fait à maintenir le même rythme qu'au début. Et la lutte donc reste très rude entre les deux hommes.
Ce qui est hallucinant en fait quand tu vois ce combat, c'est qu'on sait que Frazier a un crochet du gauche qui est dévastateur. Mais en fait, il n'arrive pas à le parer, quoi. Il se prend un nombre incroyable de crochets, Ali. Et il n'arrive pas à l'esquiver.
Il a énormément de frappes au corps aussi, et ce qui joue beaucoup sur le souffle. Donc, effectivement, on le voit le frapper dans le buffet en permanence. Et puis, il se retrouvait finalement à court de souffle aussi. Et c'est ce qui donne, au fur et à mesure, la possibilité à Frazier de remonter dans le match.
Ouais. Non, mais c'est rigolo parce que tu sais qu'il a le crochet du gauche et il te le met quand même.
Ouais.
C'est exactement comme Robben. Joueur bien sûr que vous connaissez tous du Bayern Munich, on sait tout de suite qu'il va revenir au centre avec son pied gauche et faire un enroulé lucarne. Tout le monde le sait, il le fait toujours.
Il met le but toujours de la même façon. Là c'est un peu pareil. Moi ce qui m'a entre guillemets un peu déçu quand j'ai vu ce combat, c'est que m'attendant à voir entre guillemets le combat du siècle, je m'attendais à quelque chose de très serré et pas tant que ça en fait.
Non. Mais déjà le titre en fait il n'aide pas du tout
à la bonne compréhension. J'ai pas compris.
Au public, quand t'es pas dedans. Moi personnellement ça m'a juste confirmé que la boxe c'était pas du tout. C'est pas mon truc du tout. C'est pas du tout fait pour moi. Même si en fait le.
C'est quoi ton sport toi déjà?
Aujourd'hui c'était la dernière course, en plus c'est l'enfer. Mais même si c'était hyper intéressant de regarder les différentes postures des deux. En fait, ce qui m'intéressait, c'était les ralentis. À la limite, je pouvais comprendre les actions. Je voyais où allaient les points, qu'est-ce qui était touché.
Effectivement, c'est quand même un sport d'initié et en plus les retransmissions télé et en plus les images d'archives n'aident pas forcément. Mais effectivement, les ralentis sans les ralentis, on est quand même un peu désemparé pour observer clairement les techniques opposées. La vitesse à laquelle ça va extrêmement vite et c'est quand même un sport qui est à la télévision assez difficile.
Mais je trouve que sur ce combat, il n'y a pas forcément une grande intensité. Ali est très sur la défensive. Il y a un truc qui est emblématique dans ce combat. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué. C'est qu'Ali est dans les cordes. Il enchaîne des coups, mais il est sur sa garde. Il est vraiment sur la défensive. Et Frazier, ça l'énerve. Et à un moment donné, il le prend par les poignets, carrément. Et il le ramène au milieu du ring. Cette image, elle est incroyable, quoi.
Ouais. C'est vrai. Et c'est rigolo parce que Moi, j'aime beaucoup les tactiques différentes et les confrontations de style en boxe. Je trouve que c'est très intéressant. Et c'est vrai que pour quelqu'un de non-initié, il va tout de suite voir la violence et pas forcément l'écoute qu'il y a entre les deux boxeurs, qui est en fait magnifique.
Bien sûr,
qui peut être magnifique, cette écoute-là, entre deux corps, elle est très belle en boxe.
C'est beau ce que tu dis, Olivier.
N'est-ce pas ? Oui, oui. Et je trouve que... Par contre, pour que entre Frazier et Ali, il y a pas vraiment de tactique. Je veux dire, c'est il y a tout de suite une intensité, il y a une opposition de style, ça c'est sûr. Ouais, c'est pour ça que clair. Ça reste incroyable. Il y a une intensité folle, mais très vite la fatigue et
l'intensité, la violence des coups.
La violence des coups prend à chaque fois, que ce soit sur le premier, mais encore plus sur le
encore
troisième,
plus
on y reviendra,
ouais.
Le dessus sur la tactique.
Ouais. Est-ce qu'Ali a pas voulu justement tout donner dans les premiers rounds, en sachant que Frazier était plutôt un diesel et qu'il avait du mal à démarrer?
Si, parce que techniquement. Ce qu'a fait Foreman, on en parlera certainement, mais effectivement, le fait d'être redoutable sur le long terme met en danger logiquement Mohamed Ali, et Mohamed Ali le sait. Et effectivement, il donne tout à ce moment-là, donc du coup, il va au contraire de sa boxe.
Ouais.
À ce moment-là, en fait, il se contrarie lui-même. Ce qui crée finalement, malgré cette pensée-là, eh ben, un désavantage pour Ali.
Et d'ailleurs...
Plutôt que de rester naturel et de faire sa boxe, il va à l'encontre de sa boxe. Et finalement, il donne un avantage à l'adversaire.
Ouais. Et d'ailleurs, on va voir qu'effectivement, c'est Frazier qui va réussir à imposer son style au fur et à mesure des rounds,
ouais.
à prendre l'ascendant en imposant le corps à corps. Ali, lui, il n'arrive pas à garder ses distances, il n'arrive pas à esquiver, comme on l'a dit, les crochets du gauche. Au début du 15e round, donc le dernier, si je ne me trompe pas, il y a un nouveau crochet du gauche de Frazier qui va envoyer Ali au tapis. C'est que la troisième fois de sa carrière qu'il va au tapis, c'est-à-dire qu'il tombe par terre. Hein.
Oui.
Il va quand même se relever au bout de 4 secondes, donc le match peut continuer. Et on va aller jusqu'au bout du temps réglementaire. Et donc, il n'y a pas de victoire par KO, mais une victoire au point de Frazier.
Sans surprise, hein, parce que quand on voit le match,
c'est clair.
Largement l'avantage de Frazier.
C'est important
Sauf
de
pour
dire.
Ali, visiblement.
Voilà, c'est important de le dire pour la suite.
Mais ça, c'est stratégique.
C'est une décision unanime des juges. 8 rounds pour Frazier, 6 pour Ali et un nul.
Oui. Mais effectivement, comme tu le dis, Olivier, Mohamed Ali va un peu contester finalement ses décisions.
Ali nous fait une Jean-Michel Aulas ou Mickaël AMPG, j'ai noté.
J'ai vu ça aussi. Oui. Et je ne te contredis pas.
c'est vrai que cette défaite, elle fait très mal quand même à Ali, qui rêvait d'être un champion invaincu toute sa vie.
Toute sa vie, ouais.
Et donc vraiment, lui et son équipe ne vont pas arrêter de dire que c'est injuste, que les juges...
Oui, mais...
Il va dire... D'ailleurs, c'est marrant, il va dire voilà, c'est des juges blancs qui ont donné la victoire
évidemment.
À Frazier. Et quand la fois d'après, c'est lui qui va gagner, on va l'interroger là-dessus. Il dit cette fois-ci, les juges blancs, ils ont bien jugé.
Ils ont eu raison.
Ils ont eu raison.
C'est
super.
C'est la mauvaise foi 2000. Quoi.
On a l'impression que ce combat, il fait mal un peu aux deux, malgré tout.
Ouais.
Parce que d'un côté, il y a Ali qui voit son rêve d'être invaincu toute sa vie complètement anéanti, en plus par quelqu'un qui l'a... Je pense que si Ali insulte autant Frazier, il le provoque autant comme il n'a jamais provoqué quelqu'un d'autre, c'est qu'il a très peur, mine de rien, de lui.
Bien sûr,
et qu'il le respecte quelque part. Et Frazier aussi, ça lui fera mal, parce que malgré cette victoire, il se rend compte que tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire c'était un titre usurpé, voilà, il ne va jamais être considéré comme un grand boxeur par rapport à Ali.
Ce sera pas légitime.
Ça leur fera mal mutuellement aussi au sens propre du terme, parce qu'ils vont faire un peu d'hosto quand même, les deux.
Ouais, c'est clair.
Il y aurait même des rumeurs de mort apparemment
de Frazier.
C'est quand même fou.
Mais ça, c'est peut-être le clan de Ali qui lance cette rumeur. Je sais que Frazier a une blessure à l'œil assez grave. Il perd même quasiment partiellement un œil.
Ouais, mais elle est plus vieille.
Encore plus ancienne.
64.
On va en reparler. Le 22 janvier 1973. Donc
à Kingston
en Jamaïque, Frazier affronte le challenger numéro 1, un certain George Foreman. On en a parlé.
Oui, tout à fait. Et Foreman va infliger une très lourde défaite, très humiliante d'ailleurs à Frazier.
Et la première,
il va le battre en 2 rounds. Et Foreman récupère le titre de champion du monde.
Ce qui est hallucinant, c'est qu'il le bat en 2 rounds, mais en le mettant 6 fois au tapis. C'est colossal. Ce qui est hallucinant, c'est que Foreman dira plus tard qu'en fait, il avait très peur de Frazier à ce moment-là, qu'il a eu très peur tard, c'est-à-dire qu'il l'a mis 2-3 fois au tapis. Il s'est dit, putain, je déconne, là, je le mets au tapis, il va venir, il va m'énerver, il va me foutre sur la gueule.
Il n'a pas eu peur avant, il a eu peur pendant le match.
Non, avant, pendant, jusqu'à très tard, alors qu'il avait tout pour être en confiance. Il vient de mettre 3 fois Frazier au sol.
Alors, non, mais lui, quand tu l'énerves.
Ouais.
Alors, ce qui confirme justement
la stratégie.
Ce que je disais tout à l'heure, ouais. Le fait que Frazier rentre mal dans ses combats.
Ouais. Ouais.
Et là, pour le coup, il l'a pris de plein fouet parce que il s'est fait rentrer dedans.
Il fait la même stratégie que Ali, donc Foreman, hein, fait la même stratégie qu'Ali, sauf qu'il n'a pas les mêmes avantages physiques. Là, pour le coup, il frappe comme une mule.
Ouais.
Beaucoup plus fort qu'Ali au niveau de l'impact, et cette fois-ci ça coûte cher à Frazier.
Foreman, c'est le ce que je disais au Paris Podcast Festival, c'est vraiment le Tyson de l'époque, quoi. C'est ouais. un mec qui ouais. met tous ses adversaires KO en 3-4 rounds hein, maximum. Alors il y a une revanche.
Il y aura une revanche toujours au Madison Square Garden
entre Ali et Frazier. Oui.
Entre Ali et Frazier.
28 janvier 1974. Tout à fait.
Oui, alors pour bien préparer le combat, ils prennent soin de se bastonner avant sur un plateau télé.
C'est toujours voilà, sympa.
C'est toujours ouais. sympa.
Vous l'avez vu ça ? Moi, parce que moi, j'ai vu ça et en fait, effectivement, ça n'a pas l'air d'être du chiquet parce qu'on a.
Non, parfois... en fait, Ali va encore une fois, comme la 27e milliardième de fois,
oui.
traiter Frazier d'idiot, de débile.
Mmh. Ouais. Et Frazier se met Frazier devant lui.
Frazier se met devant lui.
Il se lève. Ouais.
Et là, il faut quand même plusieurs personnes pour.
Ouais.
Et là, je m'imaginais, moi, technicien, devoir séparer les deux bêtes. Là, je...
tu un peu chaud.
T'aurais fait des stories, toi.
Oui.
Frazier dira que c'était pas du tout une blague. Hein. C'était ouais. vraiment, ils allaient vraiment se mettre sur la gueule en direct.
Bon, quand j'ai commencé à lire un peu ça, je me suis dit tiens, je vais aller voir les images et je pense que c'est du chiquet comme on sait très bien le faire à l'américaine.
Ouais.
Et en fait, non, ça a l'air ouais. assez sérieux.
Ouais, ça a l'air très
mais
sérieux.
Mais la blessure est très profonde. Frazier ne digère pas l'oncle Tom. Il ne digère pas qu'on l'appelle le gorille. Il ne ouais. digère pas les insultes
et
à
jamais.
Répétition.
Jamais.
Son gamin se fait que martyriser ouais. dans
exactement.
La cour d'école. Il reçoit des menaces de mort. Je veux dire, on est quand même un point où Frazier, qui en plus, on l'a dit, vient d'un quartier quand même pauvre
ouais.
Et qui a tout donné pour ses pères et ses proches.
Et on peut aussi recontextualiser l'Amérique, même aujourd'hui, hein, mais l'Amérique de l'époque est ultra violente.
Ouais.
Et pour le coup, les Noirs en minorité, dans les avantages qu'il peut y avoir pour un citoyen américain... vivent très mal en fait ce genre de choses et lui
encore plus
avec la médiatisation.
Alors c'est une période vraiment où il éprouve de la haine
oui.
absolue
ouais.
envers Mohamed Ali. Ce deuxième combat va un peu décevoir
ouais.
hein, par rapport au premier.
Déjà il est beaucoup moins médiatisé tout simplement parce que c'est pas un match entre un champion, enfin les deux ne sont plus champions
plus
du monde.
Il y a plus c'est la même hégémonie
c'est Foreman le champion du monde.
Donc il y a plus vraiment d'enjeu. Et voilà.
Et oui, voilà. Et donc, c'est un match, c'est un peu un 0-0 des familles, si on faisait une métaphore footballistique.
Oui, mais Ali gagne au point quand même.
Ali gagne au point, cette fois-ci, en ne faisant pas la meilleure erreur. C'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de le canaliser, le garder loin de lui. Voilà.
Il a appris un petit peu.
Il va l'éteindre, il va éteindre un petit peu Frazier.
Frazier, oui.
Et donc, il y a à ce moment-là un partout entre Ali et Frazier. Oui. Et donc, il va falloir faire une belle.
Il va falloir faire une belle. Alors, entre-temps, quand même, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais entre-temps, Ali redevient champion du monde.
Exactement.
En 74,
en 74.
Il bat George Foreman au Zaïre, le fameux Rumble in the Jungle, combat mythique où Ali bat Foreman alors qu'il n'est pas du tout favori. Et effectivement, le 1er janvier 75, troisième et dernière rencontre entre les deux rivaux qui se jouera. Tiens, où ça ?
Aux Philippines,
c'est assez intéressant parce que comme à Kinshasa, oui. C'est un combat qui arrange surtout le dictateur hein, du pays. Donc à l'époque aux Philippines, c'est Ferdinand Marcos. Donc on distrait un peu
bon
le
dictateur.
Ouais. on distrait un peu le peuple en lui offrant des jeux.
Du
on
pain se refait et des jeux. Du
exactement.
Pain,
ouais. On se refait un peu une image. Marcos a instauré à l'époque la loi martiale dans son pays depuis
toujours,
trois années.
Toujours sympa. Mais...
Et on retrouve une figure dont on avait parlé. Durant l'épisode de Mike Tyson,
ouais. Oui, un
le
chevelu.
Fameux Don King,
le, chevelu,
le gentil oui. Don King.
C'est ouais. lui qui organise aussi ce combat.
Et oui. Et ce combat donc, va avoir un petit nom, hein, comme le combat du siècle, Jungle in the Rumble, c'est The Thrill in Mania.
Yeah, et bon, coquet de somme hein, quand même que vont toucher les deux, oui. surtout Ali d'ailleurs.
Moi, ce qui me fascine quand tout. Même dans la boxe, c'est l'art du titre. Tu sais, ouais. l'accroche que l'on a comme ça sur les belles affiches d'époque. Et effectivement, il y a toujours l'art du titre pour montrer... l'importance de la confrontation. Ouais.
Et donc oui, visiblement 10 millions pour les deux, plus de la moitié pour Ali.
Ouais.
Enfin, voilà, on ne sait pas exactement évidemment ce qui est arrivé dans les poches de chacun.
6 contre 3, je crois, un truc comme ça.
Ce qui est sûr que la plupart, c'est que Don King, il s'en est pris plein les poches aussi.
Oui, bah évidemment.
Oui, ça, c'est sûr. Et du coup, on a encore des écarts... au niveau de l'arrivée, par exemple, des deux, sachant qu'Ali arrive sous l'œil de caméra, dans un super avion, alors
superstar.
Que...
Superstar.
L'avion alors... qui sera retardé
Retardé justement à côté des caméras.
Voilà, tout à fait, pour qu'Ali, les caméras ne sont pas prêtes. Attendez, attendez.
C'est pas le bon angle. Alors que Frazier, c'est incognito, limite, la casquette, les lunettes et l'impair, quoi.
Ouais, ouais.
Discret. En fait, il prend un peu aussi les leçons du combat de Foreman, parce que Foreman, justement, arrive en grande pompe en jet privé, et puis accompagné, et surtout avec un berger belge au bout d'une chaîne. Et effectivement, à ce moment-là, il a déjà perdu son match. Frazier, lui, prend un peu ses leçons et arrive de façon très discrète pour justement être concentré. Et
il est encore plus chaud cette fois-ci, Ali.
Ouais.
Il est alors, ouais, au niveau de la prestance, mais au niveau de trash talking,
il est au maximum de la nuisance.
Il est au paroxysme de son trash talking envers Frazier. Hein,
alors tout le monde se prosternera quand j'exploserai The Gorilla in Manila. C'est déjà on part fort.
C'est vraiment moi. Enfin, quand tu vois les images, tu te demandes ce qu'il. Tu dis, c'est un cinglé. Mohamed Ali. Non, mais enfin, c'est ultra violent.
J'ai vu. Je suis désolé, je vous coupe. J'ai vu des images extraordinaires de Mohamed Ali sur un reportage français où il est dans la voiture, il commence à chanter et il dit, il est complètement mégalo. Tu sais, ouais. Il dit, ouais, de toute façon, si j'avais été chanteur, les Beatles n'auraient pas existé. Puis en fait, il se met à chanter, puis tu te rends compte qu'il chante très mal. Puis il fait, ouais, bon, j'ai besoin un peu d'entraînement.
Alors, à ce sujet-là, j'ai une toute petite anecdote. Très vite au début de la carrière de Mohamed Ali, c'est que un jour il va, si je dis pas de bêtises, il va s'entraîner et il croise un groupe de 4 mecs qui venaient prendre une photo avec la star de l'époque qui était Liston. Et en fait il voit Ali, ils font tu veux pas qu'on prenne une photo ensemble, et il se rend pas compte mais c'était les Beatles en fait, les 4 petits gars qui commençaient première tournée aux États-Unis. Ils débarquent, Liston il dit je suis désolé mais c'est quoi ces tapettes, je vais clairement pas prendre de photo avec eux. Eux ils se rabattent sur Ali sans trop savoir, mais par contre ils vont dire il va se faire éclater en fait. Ouais. Ils vont s'affronter tous les deux, et j'aimais bien cette petite anecdote.
Et d'ailleurs pour filer la métaphore du gorille au cas où les gens auraient pas bien compris, Ali sort des petites figurines, tape sur un gorille en peluche. C'est vraiment, il va même saccager intervenir au moment où Frazier s'entraîne. Ouais. Il se met en haut et il gueule T'es nul. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi.
C'est vraiment un gamin de cours de récré, quoi.
Il est absolument insupportable. Il arrive dans son hôtel avec une fausse arme, qu'une arme de service, je sais pas quoi.
Et dans l'hôtel de Frazier.
Dans l'hôtel de Frazier, en disant mais je vais te tuer, etc. Donc, forcément, il se fait arrêter. Mais il est insupportable.
Il fait tellement de nuisance que Frazier est obligé de se barrer.
Ouais. Il est obligé de se barrer, mais en même temps, on se rend compte que dans la vie d'Ali, ça se passe pas super bien. Donc, c'est peut-être, je ne justifie pas, mais c'est aussi pour ça qu'en fait il change un peu les idées en allant tacler Frazier. C'est que lui de son côté déjà il est avec sa
nouvelle copine,
sa pimp de l'époque, Véronica Porsche, alors qu'il est marié avec Belinda.
Et Belinda,
j'avais envie de partir sur la chanson, mais je ne l'ai pas fait.
Belinda qui va découvrir les images officielles de Ali, qui va avoir justement reçu par le dictateur, accompagnée de sa meuf Véronica Porsche. Donc, ça va créer un peu des tensions dans le couple. Et spoiler alert, ça ne va pas durer leur couple.
Ouais, ça aurait été marrant qu'ils sortent avec Véronica Porsche et Lolo Ferrari.
Ok.
Ou Jérémy Ferrari.
Et donc,
bah oui, pourquoi pas.
Et donc pour bien mettre en place tous les éléments avant le match, on a vraiment un peu Frazier qui s'entraîne comme une brute d'un côté, et Ali qui est beaucoup plus détente, qui se dit que ça va être un peu du gâteau, qui profite un peu de sa nouvelle meuf, etc. Donc il y a une vraie confrontation de style
avant. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a, je sais pas si c'est quelque chose de maîtrisé à ce moment-là. Ou s'il pensait vraiment en fait que cette nuisance qu'il allait créer avant ressemblait un peu à celle qu'il avait faite effectuer au Zaïre, ou finalement il y avait quelque chose de nuisible aussi pour l'adversaire, mais quand même de beaucoup moins violent. En fait, on était un peu moins sur des attaques personnelles, on était un peu plus sur
je vais l'allonger en deux roues.
Ouais, voilà. Et un
déco-trip.
Et il cherchait un encouragement populaire aussi. On voit très vite, en fait, que, on va le voir après, mais on voit très vite que finalement, c'est pas forcément ce qui va lui attirer de la sympathie locale.
Non, oui. Le coup de l'arme à feu, c'est fou quand même.
Le coup de l'arme à feu, c'est complètement. Sans limite, c'est au-delà du geste déplacé, c'est carrément même un geste dangereux et qui est condamnable. Et derrière.
Oui,
tout à fait. Ouais. Et puis derrière, en fait, on commence, et moi, je vous fait l'aveu, on commence à détester Ali.
Je suis d'accord.
Mais n'empêche, Frazier n'est pas favori.
Non, personne ne dit
favori. Il reste quand même...
Ouais. Bah, il est champion du monde. Ouais. Alors, le 1er octobre 75, donc le match a lieu à 10h du matin hein, pour que les chaînes locales aux États-Unis puissent le retransmettre. Forcément. C'était pareil avec le Rumble in the Jungle, sauf que c'était 4h du matin. Et comme tu le disais, Younes, le combat s'apprête à commencer. Et vous allez voir qu'à l'inverse de son combat contre Foreman au Zaïre, et malgré la chaleur suffocante, Ali va recevoir un accueil plutôt froid du public. Écoutez.
Wearing white trunks with black stripes, from Louisville, Kentucky, USA, the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Ali.
Alors, il se fait vraiment applaudir par une partie du public et huer par une autre.
Bien fait. Là, on est très très loin de du Ali Boumaïe du
Zaïre. Ali Boumaïe du Zaïre. Mais Ali est insupportable. Et encore une fois, quand le trophée est présenté, il va le prendre. Alors le trophée est sur le ring, hein, présenté tout le monde au milieu du ring. Il va sortir de son coin pour prendre le trophée, le ramener dans son coin. Il est vraiment. Alors, moi, je voulais que Frazier l'explose.
J'ai une théorie. Hein, c'est que effectivement, j'ai l'impression que plus il se sent en danger, plus il tombe dans ses travers.
Ouais, c'est possible.
Il a toujours été comme ça et on l'a vu très tôt dans sa carrière, en fait, dans les images d'archives, il a toujours eu une grande gueule. Mais là, j'ai l'impression que plus il se sent vulnérable et plus il devient insupportable et là, il tombe dans une caricature de lui-même. Et effectivement, à ce moment-là, je pense qu'il n'était pas hyper confiant.
C'est bien possible. Encore une fois, l'enjeu, l'opposition de style, l'enjeu, c'est qui va imposer le sien.
Ouais.
Et en fait, très vite, ce qui est hallucinant sur ce combat, c'est que le combat est très violent.
Et étouffant même de violence.
Alors oui, il faut quand même préciser que la température est très élevée.
52 degrés ressentis visiblement,
impossible de combattre sous cette chaleur.
Non mais c'est fou.
En fait, s'il y a des indices d'humidité qui font que effectivement.
D'ailleurs, tu pourrais nous parler un petit peu. Je propose qu'on arrête de parler d'Ali et de Frazier et qu'on fasse un petit quart d'heure sur les indices d'humidité de Younes.
Non, et on sent vraiment que Frazier, enfin. Ça va au-delà du combat. C'est pas gagner pour être champion du monde. En fait, c'est une question de presque de vie ou de mort. Il est prêt à tout donner, quoi.
Là, c'est l'honneur. Tu le sens d'ailleurs. Tu le sens d'ailleurs dans son coin quand il voit justement Ali
qui
fait son show à prendre le trophée. Tu sens tout ce qui est intérieur chez Frazier qui dégage un truc d'assez fort, quoi.
Ouais. Le combat, alors comme d'habitude, Frazier entre mal dans son combat.
C'est Ali qui prend un peu le dessus sur les deux premiers rounds.
On a le droit à un classique, un peu comme un Nadal Federer où on sent que Federer quand même a une technique une aisance et en fait dès qu'on est sur de la terre battue ça suffit pas, quoi.
Ça dépend de l'indice d'humidité.
Toujours de l'indice d'humidité,
surtout sur la terre battue.
Et puis le sens du vent aussi.
Important.
Ce qui est assez fou, c'est ce que je disais, c'est la violence. C'est pas un combat de boxe, quoi. C'est un combat de rue, franchement.
Là, pour le coup, c'est encore plus que dans le premier combat, tout ce qui est tactique, technique, et derrière l'intensité et la violence des échanges.
Bien sûr.
En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a zéro défense. En tout cas, dans les premiers rounds, il y a zéro défense d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettent des patates, quoi.
Après, chez deux boxeurs, il y a un peu moins de réserve que dans leur jeunesse, et on est un peu sur des fins de carrière aussi. Hein. Donc, c'est des matchs dans lesquels en fait on voit finalement le brut de la boxe. Hein,
mais là, notamment pour Frazier, on pourrait croire que s'il survit pas à ce match, c'est pas grave tant qu'il emmène Ali avec lui.
C'est vraiment un côté très suicidaire.
Quoi.
C'est pas le cas d'Ali et Frazier le dira même 30 ans plus tard qu'il aurait préféré mourir que de perdre ce match, en fait.
Il aurait préféré mourir
que de perdre ce match.
Pour info, Frazier avait 31 ans et Ali 33.
Frazier, il arrête sa carrière à 37, donc il y a quand même 6 ans encore derrière. Ali, je sais pas, mais il redevient encore champion, il repère son titre.
Il redevient champion une troisième fois.
En tout cas, Ali, il s'amuse à chanter des comptines à Foreman.
Ouais, il chante des comptines, il lui balance « C'est tout ce que tu sais faire, gorille, insupportable ».
Il y a cette scène qui est incroyable. Alors, je sais plus, j'ai un petit truc, je sais plus si c'est dans le Thriller in Manila ou si c'est dans le premier, mais en fait, il se retrouve un peu dans les cordes, Ali. Et du coup, Frazier tape dans l'abdomen, en fait, il le travaille, et Ali lui dit tape, il continue, il le provoque.
C'est
dans celui-ci d'ailleurs. Frazier va, plutôt que de le taper au visage, il va l'affaiblir et le fatiguer en le tapant dans les reins, dans le foie, etc.
Il va finir par fermer sa gueule, celui-là.
Que ça ralentit beaucoup Ali, en fait, au fur et à mesure.
C'est d'ailleurs ça qui va faire basculer un petit peu le combat. Bon, disons que les trois premiers rounds sont plutôt dominés par Mohamed Ali. Et tout d'un coup, Frazier va avoir l'idée d'utiliser son coup droit. Oui. Parce qu'on l'oublie un peu, mais en fait, Frazier
est droitier.
Et toi, tu l'as rappelé, Mickaël, oui. Frazier est droitier. Il utilise son gauche. Mais voilà, et tout d'un coup, il va mettre un coup, je crois que c'est dans le quatrième.
Ça fait basculer.
Ou cinquième.
Ça fait basculer le match.
Ça va faire basculer parce que tout d'un coup, Ali, qui est, mine de rien, il a peur, Ali. Il va dire, ah ouais, si en plus il utilise son droit, que j'ai pas forcément l'habitude de parer, voilà, ça va être un peu compliqué. Mêlé à, comme tu le dis, Sarah, les coups dans les organes.
Exactement.
Ouais. Et ce qui va quand même faire la différence au début du combat, c'est qu'Ali, cette fois-ci, contrairement au premier combat au Madison Square Garden en 71, il va réussir à garder sa distance.
Oui.
Il tend le bras, en fait, il tend le bras en permanence, quasiment, et évite le corps à corps. Frazier a du mal à passer au corps à corps.
Ouais.
Mais bon, Frazier va quand même un peu prendre le dessus donc à partir du quatrième round, et on a même cette phrase très célèbre, ce moment très célèbre où au dixième round, Ali va se tourner vers son camp et leur dire « c'est ça mourir ».
C'est pour dire
l'intensité du combat entre les deux.
Ce qui est hallucinant, c'est quand on regarde le premier combat, entre chaque round, Ali fait son malin, il fait un peu son show, il reste debout d'ailleurs. La plupart du temps, il reste debout dans le coin.
Là, pas du tout.
Là, il s'assoit, il est en sueur, il est essoufflé. Il lève même pas les yeux, il a les yeux par terre. Les deux, ils sont exténués. Frazier est ultra déterminé, donc on voit un peu moins sa fatigue. Mais Ali, on sent qu'il est au bout.
Il est de plus en plus lourd. Ses gestes sont de plus en plus lourds. Et c'est pas précis. Ça commence à être triste.
Ouais. Après, je veux pas faire mon Evelyn Delia, mais les conditions météo étaient
difficiles. C'est vrai.
Trop d'humidité.
Indice d'humidité trop élevé, bien sûr.
Trop élevé. Ouais,
alors il va quand même à un moment donné, à l'arrivée du terme du combat, à partir du dixième round, Ali va reprendre un peu le dessus.
Il y a une raison à ça.
Ah ouais. C'est quoi ?
Et ben, c'est que Frazier, il va commencer à ne plus rien voir du tout, puisque son œil droit a été amoché par Ali. Il s'est pris des coups, donc il enfle et donc il voit de moins en moins bien. Et en fait, apparemment, moi j'ai trouvé cette anecdote absolument incroyable.
C'est fou.
Personne ne savait que Frazier boxait avec qu'un seul œil à 100% valide depuis 1964, que son œil gauche avait été amoché lors
de l'entraînement.
Exactement.
C'est logiquement un secret pour un boxeur, hein, de toute façon, parce que c'est une faiblesse telle.
Oui, c'est vrai.
Seul Eddie Futch, son entraîneur, le savait.
Oui.
Et donc, je crois pas qu'il est complètement aveugle de l'autre œil, mais il voit très mal, donc il voit pas les coups arriver très bien de ce côté-là. Oui, Olivier.
Non, d'ailleurs, ça se voit parce qu'au 11e round, il s'assoit sur les genoux d'Ali, en pensant que c'est son tabouret. Bon.
En tout cas, ça permet à Ali de pas perdre. Hein. Et donc, voilà, comme tu dis, ils sont absolument épuisés.
Alors, au 13e round, pour moi, c'est vraiment l'image de ce match, c'est cette étoile filante qui arrive, qui part du ring, qui part de la bouche de Frazier, qui vient de se prendre un coup. Alors, de quel bras?
Je crois que c'est du bras droit. Je crois que ça doit être un crochet du droit. J'en suis pas sûr, mais il me semble.
Et ça fait voler le dentier de Frazier.
Oh, c'est le protège-dent, c'est ça.
Mec, il est aveugle.
Le dentier, c'était Jacky Sardou. Hein.
Pardon,
en fait, c'est
Frazier.
Pas le 4 du tout, mais t'as raison. En fait, et on a cru que c'était le 4, mais en fait, il boxe en déambulateur.
Et il met du polydent le soir.
J'imagine. Il y a son dentier qui gicle et son œil de verre.
Et sa perruque.
Sa jambe de bras. C'est un pirate.
C'est fou qu'avec tout ça, il s'est devenu champion quand même.
C'est quand même très impressionnant.
Il a un perroquet sur l'épaule.
C'est de l'espoir pour tout le monde, ça, c'est beau.
Et en fait.
Son protège-dent, pardon.
Du côté des commentateurs et du public, on se dit de plus en plus, non mais ce match, il faut qu'il s'arrête en fait, il est trop violent, il va finir par y avoir un drame.
Ça devient une boucherie, ouais.
La 14e reprise est ultra violente et c'est la fin du 14e round. Les deux boxeurs sont tous les deux épuisés.
Frazier prend très cher.
Il prend très cher, même sur les trois derniers, entre le 12 et le... Dès qu'il est aveugle en fait, dès qu'il voit plus rien, il prend très très cher et on pense vraiment que ça va très très mal se finir. Enfin, en tout cas, en tant que spectateur, c'est chaud quoi.
Ouais. Exactement, Frazier va tituber pour retourner dans son coin. Et là, on va voir des deux côtés, en fait, à la fin du 14e round, il y a un peu des discussions des deux côtés.
C'est incroyable, parce que ça, je le savais pas, mais Ali avait demandé, en fait, à abandonner.
Oui, quand il coupe les gants.
Il voulait vraiment abandonner, et à l'inverse, Frazier, lui, voulait continuer. Mais c'est l'entraîneur de Frazier qui prend une décision de protéger son boxeur, puisque par le passé, il avait déjà eu quelques
décès,
pertes.
Il a perdu 8 boxeurs.
Ouais, 8 boxeurs.
C'est pas ses boxeurs à lui. Il a vu 8 morts
sur le ring.
Je pensais que c'était ses boxeurs.
Ce serait vraiment
le chat noir.
Ouais. Et là, je fais une parenthèse où je rejoins un peu Chloé. Au-delà de certains aspects techniques qui peuvent être intéressants dans la boxe, moi, quand je lis un chiffre pareil, c'est quand même terrifiant.
C'est un sport ultra violent.
y a aucun moment, en fait, ce sport n'est, même par les aficionados de la boxe, personne ne peut qualifier ce sport comme un sport non violent. Donc, effectivement, c'est un sport de haut risque et peut-être le sport le plus risqué. Oui.
Et donc, Frazier donc, abandonne.
Oui, enfin, sur demande de son entraîneur. Lui, il ne veut pas. C'est fou, les images, quand on voit les images. Il dit non, je veux continuer. Oui.
Et donc, Ali gagne, victoire qu'il va finalement peu fêter, puisqu'il s'écroule lui aussi de fatigue. Quoi. Enfin, les deux sont épuisés et très amochés à la suite de ce match.
Bah, c'est vrai, parce que ça veut dire que, pardon, mais c'est vraiment une question de timing, parce que tu peux imaginer peut-être que si l'entraîneur Fudge n'avait pas pris la décision dans les 30 secondes, c'est Ali qui aurait lui-même abandonné.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Ça aurait pu être finalement Frazier le champion. Ouais. C'est un combat, je ne vais pas dire que je vous conseille de le voir, c'est un combat qui est d'une intensité incroyable, d'une violence assez inouïe. Moi, j'avais la main sur la bouche, tu sais, tout le long, tout le long du combat, en me disant, c'est pas possible.
Et sur la mienne aussi, ça m'a un peu gêné.
C'était pas ma main, lui.
Pourtant, il y avait des doigts.
Mais si vous avez le cœur bien accroché, jetez un coup d'œil quand même à ce combat. C'est un combat d'une intensité incroyable.
Alors, moi, je vais juste faire une petite parenthèse, mais je pense qu'un combat de boxe, c'est pas quelque chose que tu peux regarder. Juste, tu te dis aujourd'hui, je vais regarder un combat de boxe. Je pense qu'il faut avoir du background, qu'il faut connaître un petit peu les protagonistes. Oui. Parce que, tel quel, comme ça, moi, si j'avais pas un petit peu lu des choses sur Frazier et sur Ali, pour moi, c'est juste deux mecs qui se tapent dessus et des gens qui crient autour.
Ouais, Chloé a raison.
Là, tu sens la confrontation entre les deux. Tu sais qu'Ali, ça fait 4 ans qu'il est sur ses côtes, alors qu'avant Frazier, il a tout donné pour lui. Je trouve que ça donne un bagage émotionnel qui est très important.
Chloé a raison, c'est un sport, effectivement, quand on s'attache aux protagonistes en fait, des matchs, c'est quand même plus intéressant parce qu'il y a des oppositions de style, il y a même des idéologies quelque part qui, on le voit même dans cet épisode, qui se défendent, en tout cas en boxant. Et effectivement, tomber sur un match de boxe comme ça et essayer d'apprécier sans lexique, c'est hyper difficile.
Ouais. En tout cas, Ali gagne, mais quand on voit, c'est presque frustrant finalement qu'il gagne. Enfin, on aurait eu envie presque que Frazier gagne ce match, puisque
on commence à l'aimer. Quoi.
Il fait presque gentil loser, quoi, comparé à Ali. Qui est dans tout son ego trip,
qui est un bad guy,
assez insupportable.
Qui est à ce moment de sa vie un bad guy assumé. Quoi, ouais.
Voilà, alors, quand même, il y a un tournant après cette victoire. Alors, il gagne, mais il y a un tournant. C'est qu'à un moment donné, il se met d'un seul coup à se dire putain, en fait, respect, quoi, Frazier.
Dès la fin des matchs, dès la fin du match, il va. Parce qu'il n'y en aura pas d'autres, il le sait, je pense aussi.
Ils sont allés au bout.
En fait, reconnaître que Frazier est un très grand boxeur. Ouais. Il va essayer tout de suite de s'excuser, mais alors. La fierté de Ali à ses limites, c'est-à-dire qu'il va s'excuser auprès de son fils en lui disant « Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu à cause de mes déclarations », mais il ne va pas le faire auprès du père.
C'est son courage qui a des limites, pour le coup. Là.
Oui, son courage. Oui. Il va quand même déclarer que si Dieu l'appelle pour faire la guerre sainte, bon, pourquoi pas, je veux Joe Frazier à mes côtés.
Ouais. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que même si les relations entre les deux hommes vont plutôt s'apaiser, en tout cas médiatiquement parlant, quand on le voit dans les années 90-2000, quand Frazier revient sur ces moments, on se rend compte qu'il n'a jamais vraiment pardonné Ali pour tout le tort qu'il lui a causé. Ali, comme on l'a dit, ne s'est jamais excusé personnellement. Et Frazier, on le sait, même s'il y a des sortes de réconciliations médiatiques, en fait, dans le fond, Frazier, il reste sur un truc ultra amer, ultra injuste.
Il va très loin, Frazier, dans ses propos dans les années 2000, parce qu'il va même jusqu'à dire que si Mohamed Ali est victime de la maladie de Parkinson, c'est une punition divine pour son comportement.
Et que c'est grâce à lui aussi et à ce qu'il lui a infligé.
Sur ce combat, d'ailleurs.
Ouais, exactement. Et il dit finalement, au final, quand on me regarde, moi, regardez, je profite encore de la vie, etc. Regardez l'état d'Ali, voilà, c'est Dieu a remis les choses à leur place.
C'est Dieu, il a fait chier.
Il a quand même un changement de comportement, Ali, à la fin de sa carrière. Et d'ailleurs, j'ai un extrait intéressant. Il va beaucoup se tourner vers l'humanitaire jusqu'à très tard. Alors, il y a aussi les effets de la maladie sur sa personne, sur sa psychologie. J'ai un extrait qui est intéressant. Le 5 mars 76, Mohamed Ali est l'invité de Bernard Pivot dans Apostrophe. Le journaliste Jacques Marchand lui pose une question sur son agressivité, justement, envers ses adversaires. Et vous allez voir qu'Ali donne une réponse assez alambiquée. Et pour lui, tout ça, en fait, c'était du marketing et du cinéma.
Oui, j'avoue que votre livre, moi, m'a donné un autre aspect du boxeur. Je reste sur le plan de la boxe même. Nous avions effectivement l'impression que vous étiez le fanfaron, que vous racontez d'ailleurs, que vous dénoncez. Mais il y a dans ce livre un boxeur qui a beaucoup de sentiments. Et qui a en particulier un sentiment de confraternité qu'on ne vous connaissait pas. Car les apparences, c'est d'injurier aux adversaires. Vous en avez fait un jeu, vous les insultez avant, vous avez insulté Liston à une certaine époque, puis ensuite vous l'avez fait pour Foreman, que vous traitez, si j'ai bonne mémoire, je vous cite, de PD, de conzesse, de ducon, etc. Et puis soudain, on découvre dans votre livre cette fraternité que vous avez pour votre adversaire. Et vous nous dites dans votre livre que Foreman est le plus fort de sa génération, que Frazier est parmi les plus grands boxeurs de tous les temps. Et puis vous avouez qu'effectivement, vous aimeriez être l'ami de Frazier. Vous voudriez être même son ami intime. Et il émane de ce livre un autre Mohamed Ali. Est-ce que c'est voulu de nous donner maintenant une autre image? Ou est-ce que votre attitude lorsque vous insultez vos adversaires est uniquement une attitude publicitaire? Est-ce que vous voulez décourager vos adversaires ou vous encourager vous-même?
Tout d'abord, monsieur, vous avez l'air d'être un homme intelligent. Donc, je pars du principe que vous l'êtes. Et que vous sachiez reconnaître la vérité quand vous entendez la vérité. Alors, on dit que l'homme qui n'a pas d'imagination a les pieds sur terre, mais ne peut pas s'envoler car il n'a pas d'aile. L'homme qui a construit la tour Eiffel avait de l'imagination. Je suis monté à la tour Eiffel aujourd'hui et c'est presque incroyable de penser que dans la nuit des temps, pratiquement, un homme a eu la clairvoyance et l'imagination de construire quelque chose d'aussi énorme, d'aussi immense. Les frères Wright avaient de l'imagination. Ils ont construit le premier avion. Et les gens, à un moment, pensaient que le monde était carré seulement. Christophe Colomb avait de l'imagination. Aucun boxeur n'a la gloire que j'ai actuellement. Aucun boxeur ne gagne autant d'argent que moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même imagination. Ils n'ont pas tant d'imagination. Non, j'étais en train de bourrer le crâne des gens lorsque j'essayais de leur faire croire aux gens que j'étais un salaud. Vous avez peut-être vu la lutte américaine, où les catcheurs, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils vont s'entretuer. Bon, voilà l'espèce de mimique à laquelle ils se livrent. Mais celui qui fait cela, eh bien, je ne sais pas comment on interprète, demande l'orateur, ce genre de bruit. L'interprète ne sait pas très bien non plus. Mais voilà une espèce de l'image, vous voyez l'image de ce que le photographe voit. Et c'est ça le photographe, c'est ça le promoteur qui a une grande bouche. Parce que le promoteur, lui, a 100 000 places qu'il doit remplir.
Attends, on va reprendre.
Ils m'ont perdu à votre livre, hein, déjà.
Déjà, c'est apostrophe, donc il y a du rythme. Hein.
On est d'accord qu'on a eu la question la plus longue de l'histoire des questions posées.
Oui, et dans la réponse aussi, ça part quand même très loin. Pendant un moment, je me dis qu'est-ce qu'il a fumé, Ali.
Mais c'est ça qui est quand même fou. Parce que
tu peux peut-être expliquer qu'est-ce qu'il y a apostrophe.
Bah, c'est une émission littéraire de Bernard Pivot. Quoi.
Donc on n'est pas c'est en génial. Prime time, on n'est pas en train d'essayer.
Ah bah c'est pas Hanouna.
Non, voilà, c'est exactement l'opposé d'Hanouna même. Oui. Non mais effectivement, ouais, c'est hyper long, hyper soporifique.
Mais en même temps, c'est intéressant.
Les lignes.
Sa réponse est très intéressante.
Sa réponse est intéressante. La question aussi, en fait. Mais...
Bien sûr. Mais après, effectivement. Mais
encore une fois, il veut raconter sa petite vie, quoi.
Bah effectivement déjà
je suis allé à la Tour Eiffel, c'était beau.
Je suis allé à Euro Disney.
Il se met au même niveau que Gustave Eiffel par exemple.
Exactement, ouais. C'est ce que je veux dire, c'est quand même Wright. Ça sa réponse.
Voilà, donc il se met à cette échelle déjà de l'humanité, donc ce qui est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a un peu d'ego. Et puis après derrière en fait, bah il révèle peut-être ou pas, on sait pas, mais que finalement c'est du marketing et que ça ressemble un peu au cinéma que font les superstars du cas.
Enfin, si meurt le marketing pendant 5 ans, tu pourris la vie d'un gars, qu'il soit des menaces de mort, tu t'excuses même pas.
C'est là où il est pas crédible. C'est là où il est pas crédible.
Ça a des limites quand même.
Il s'excusera en tout et pour tout, je crois, seulement au Times en 2001, où là, pour le coup, il y aura une vraie excuse publique,
ouais.
Où il y aura des vrais regrets exprimés sur ce qu'il a pu faire endurer aux autres boxeurs et notamment Frazier.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet ou est-ce qu'on passe à l'antidoping?
On peut passer à l'antidoping.
Eh ben, c'est l'heure de l'antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Olivier, c'est la parole est à toi.
Et oui, toujours un petit régal ce petit jingle.
Ah, oui.
Alors moi, j'ai voulu aussi m'intéresser à une rivalité sportive entre deux personnes. J'ai hésité longtemps.
Ah.
Entre Larry Bird et Magic Johnson, entre McEnroe et Borg, entre Benjamin Nivet et Florent Balmont. Mais actualité oblige, je me suis plutôt intéressé à celle de Hank Thill et Poulidor qui nous a quittés. Oui. Là, on enregistre, nous sommes le 18, donc qui nous a quittés le 13 novembre.
Il y a quelques jours.
Voilà, ouais. Vous allez voir qu'il y a un peu plus de douceur que les deux gnomes dont on vient de parler. Oui. Donc, on parle de vélo, bien sûr. D'un côté, il y a Jacques Hank Thill, Maître Jacques, comme on l'appelle, le premier coureur de l'histoire à remporter 5 fois le Tour de France. Alors, pas consécutive, une fois en 57, puis 4 fois consécutivement entre 61 et 64. Il compte aussi 2 victoires sur le Tour d'Italie, 1 victoire sur le Tour d'Espagne, ce qui en fait le premier cycliste à remporter les trois grands tours.
C'est complètement dingue, en fait.
Il détient aussi le record du nombre de podiums dans les trois grands tours, justement. Okay. Donc, le mec n'est pas là pour blaguer. De l'autre côté, c'est Raymond Poulidor. Et bizarrement, c'est lui qui va être le plus connu.
Le plus connu, ouais.
Donc, Poupou, comme on l'appelle, ou l'éternel second.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, je crois.
Bah, quand même, jugé plutôt. 3 fois classé 2e sur le Tour de France. Record du nombre de podiums également sur le Tour de France. 8 podiums sans jamais gagner. 5 fois 3e. Il remporte 7 victoires d'étape sans avoir endossé un jour le maillot jaune de leader de classement. Donc c'est un peu la mec qui a la guigne. À côté de ça, il a quand même plus de victoires d'étape et de critérium que de défaites. Hein. Oui. Voilà, il a gagné un Paris-Nice notamment, des classiques Milan-San Remo, etc. Alors, toujours est-il qu'entre le winner Hank Thill, sérieux, appliqué, travailleur, et le loser Poulidor, plus détendu, populaire, malchanceux mais courageux, le public a choisi son camp. Ce sera celui de Poupou.
Mais oui, ouais.
Voilà, ça commence en 1962, première participation au Tour de France pour Poulidor, qui le commence avec une main plâtrée. Voilà, il commence le tour avec une main plâtrée.
Rien que ça.
Et il finit troisième. Voilà, derrière le Belge Plancart et le vainqueur du Tour, donc Jacques Hank Thill. Le public découvre alors Poulidor, l'aime déjà. Deux camps vont se former très nettement chez les spectateurs du Tour, entre les Poulidoristes, les plus nombreux, et les Hank Thillistes. Voilà, sachez-le. Et ça va être plutôt violent, notamment pour Hank Thill, qui se fait insulter. On lui crache dessus, on lui fait des doigts d'honneur. Vraiment, la notoriété.
C'est marrant, le Tour n'a pas changé en fait.
La notoriété de Poupou face à Hank Thill est telle que c'est lui qui est le plus demandé sur les critériums. Et c'est lui qui gagne aussi le plus de flouze, de blé, de pépettes, de monnaie.
Des thunes.
Et donc ça, Hank Thill, il va très très mal le vivre. Ouais. Surtout qu'en plus de ça, il y a un moment donné, il va faire une fille, Hank Thill. Donc le miracle, elle s'appellera Sophie. Et Sophie, elle va réussir à prononcer Poupou avant papa.
C'est génial.
Donc forcément,
il se pose des questions.
Donc le mec n'est pas ultra serein, quoi. Donc Hank Thill, la mauvaise, alors qu'il n'arrête pas de gagner. Tour de France 63, puis on arrive au Tour de France 64. Et alors ça, je me suis un peu passionné là-dessus. On va vous en finir deux mots, mais on en fera peut-être un épisode de vous, parce que j'ai trouvé assez passionnant. Donc, comment il s'appelle ? Poulidor vient de gagner le Tour d'Espagne 64. Il est plutôt favori. On attend le grand duel qui va arriver. 9e étape, Briançon, Monaco.
Wow.
Arrivé en tête au Vélodrome de Monaco, Poulidor, qui oublie qu'il y a un tour supplémentaire à faire.
Oh là là.
Donc, vraiment, Poulidor, malchance.
Tout s'explique.
Jackie Laguigne qui s'arrête et du coup, Hank Thill qui est derrière lui passe devant, tout simplement.
Oh
va gagner l'étape et va gagner la minute de bonification.
Ah, mais voilà. Non!
Donc,
ah
mais 54... tout s'explique. C'est pas le roi de la stratégie.
Non,
quoi.
Mais c'est incroyable. Donc, 56 secondes avant la fameuse.
Mais 20... ouais. Il lève les bras ou pas?
J'ai pas vu les images, mais il s'arrête. Allez, c'est bon, je sais pas. Ouais, je pense qu'il lève les bras. Faudra.
Bah,
j'sais
forcément,
si images,
quand tu te
horrible.
Vois arriver ou tu te sais arriver.
Tu lâches tout.
Bah, ouais. Tu lâches tout et tu lèves les bras, ouais.
C'est terrible. Et donc, Jackie t'es en l'air, quoi. Vraiment. Oh, oh non! Et donc, on arrive à la. Alors, faut savoir qu'il y a eu les menaces de mort. Il y a un mage qui a prédit à Hank Thill qu'elle allait mourir dans les Pyrénées, etc. Donc c'est vraiment un Tour de France 64 qui va très très loin. On arrive à la 20e étape entre Brive-la-Gaillarde et Puy-de-Dôme, avec une montée à la fin. C'est une étape de folie gagnée par Jiménez, mais ça on s'en fout à la limite, parce qu'il va y avoir un mano à mano de ouf
entre
Hank Thill et Poulidor. Il y a 56 secondes d'écart. Hank Thill est premier du général à 56 secondes d'écart de Poulidor, et Poulidor, Hank Thill va craquer. à un moment donné. Et Poulidor va lui mettre le plus possible dans la vue. Donc là, on se dit, ça y est, il va le faire, ça va être incroyable. Poulidor, c'est 42 secondes.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà,
un cheveu.
Ça ne va pas suffire. Derrière, il y a un contre-la-montre où Anquetil est plus à l'aise dans cet exercice et Poulidor va encore une fois gagner le Tour de France 64.
Anquetil.
Puis le Tour de France. Mais non, parce que Poulidor ne gagne jamais un Tour de France.
Oui.
Anquetil va aussi gagner celui de 65. Et en 66, pour faire chier Poulidor, il va quand même se mettre sur le Tour de France 66 pour pas que Poulidor gagne un Tour de France. Voilà.
Il l'avait dans le pire.
Alors, ça, c'est une mauvaise stratégie. Enfin, ça marche. C'est une fin douce amère, un peu comme Game of Thrones, parce que Anquetil abandonne à la 19e étape et Poulidor ne gagnera pas. C'est Lucien Aymar, un Français, qui le gagnera. Alors, l'histoire est un peu plus belle que Frazier et Ali. En fait, ça va être l'inverse de la relation, c'est-à-dire qu'ils vont devenir très très potes après.
D'accord.
Voilà, en vrai, ils se sont jamais insultés, hein, personne n'a traité de gorille personne, et ils avaient un très grand respect. Un jour, en 72, Anquetil frappe à la porte de la chambre de Deck, donc il est consultant, il a arrêté sa carrière, je crois, à ce moment-là. Il frappe à la porte de Poupou pour lui demander un autographe pour sa fille. Donc il lui dit 4 ans, il dit « Raymond, putain, tu m'emmerdes encore, elle veut une casquette dédicacée pour faire comme les enfants du village. » Et à partir de là, il y aura une légère détente, mais ils n'hésitent pas à se partager un bon vin, ils partagent des tripes, ils sont très gourmands tous les deux.
Très tripiers.
Et avant de mourir, Anquetil va mourir avant Poulidor, et Anquetil lui dira, tu vois, même là, tu vas finir encore deuxième.
C'est génial.
Poulidor déclara de son côté que les deux hommes qu'il admire le plus, c'est le général de Gaulle et Jacques Anquetil.
C'est beau.
Voilà. Bravo. Ça, c'est très beau.
Magnifique. Ouais.
Bravo, ouais, je suis très chaud de faire un épisode là-dessus. C'est une très belle histoire. Merci Olivier.
Merci beaucoup Olivier.
Alors, merci à vous aussi.
Merci.
Merci à nous pour cet épisode. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide à remonter dans les classements. Et en plus, vous pouvez aussi proposer des sujets. Il y en a certains qui sont très intéressants qu'on va peut-être faire d'ailleurs le mois prochain.
Il y a un sujet que vous nous avez proposé que l'on va faire. Donc, n'hésitez pas. Ça paye.
Voilà. Alors, on est sur Twitter, on est sur Instagram. On est sur Facebook.
On a une adresse Caramel.
On est sur Copain d'Avant. On a tout. Et donc on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On va parler de sport, je pense.
Pourquoi pas.
Ok, super. Je vais être content de vous retrouver. Merci.
À bientôt.
Bisous. Salut. Sirens, niggas on the fire, bunch of thug life, niggas on the ride, until I die, ask me why, I'm a boss player getting high, and when I'm rolling by, niggas can't see me, the stairs of a million pairs of eyes, and you'll never realize,
you can't see me,
getting words at these square motherfuckers with nerves, saying they can get with us, but picture me getting served, my own
world. Si j'avais été chanteur, les Beatles n'auraient pas existé. J'aurais été plus fort que les Beatles, j'aurais encore été le meilleur. Comme la boxe. Si les Beatles sont les meilleurs à travers le monde, c'est parce que je n'ai pas encore organisé mon groupe de chant. On se demande vraiment par moments si Mohamed Ali est sérieux ou s'il plaisante. Il est déconcertant.